Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Le sixième sceau » prêché le 23 mars 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Courbons la tête un instant. Seigneur, nous nous réunissons de nouveau pour la réunion et nous pensons aux jours anciens, à l'époque où ils montaient tous à Silo pour aller chercher les bénédictions du Seigneur. Et maintenant, ce soir, nous nous sommes assemblés ici pour entendre ta parole. Et comme nous l'avons vu dans notre étude de cette partie de l'Écriture, l'agneau était le seul à pouvoir ouvrir les sceaux ou les délier. Et nous prions ce soir, alors que nous allons examiner ce glorieux sixième sceau, nous prions, Père Céleste, que l'agneau l'ouvre pour nous ce soir. En effet, nous sommes ici pour le comprendre. Et alors, qu'aucun homme, ni sur la terre, ni dans le ciel, n'était suffisant. L'agneau seul a été trouvé suffisant. Alors, puisse celui qui est entièrement suffisant venir et ouvrir ce sceau pour nous ce soir, afin que nous puissions simplement regarder au-delà du rideau du temps. Nous croyons que cela nous aiderait, Père, en ce grand jour de grande ténèbres et de péché où nous vivons. Cela nous aiderait et nous donnerait du courage. Nous avons confiance maintenant que nous trouvons grâce à tes yeux. Nous nous remettons à toi avec la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, mes amis. C'est un privilège d'être de nouveau ici ce soir, d'être au service du Seigneur. Je suis arrivé un petit peu en retard. Je viens d'aller m'occuper d'un cas urgent, un homme qui était mourant, quelqu'un qui est membre de cette église, sa mère l'est, où elle vient à cette église. Et il disait que le jeune homme allait mourir d'un instant à l'autre. Alors je suis allé et j'ai vu un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même, étendu sur un lit, mourant, un homme d'à peu près mon âge. Et au bout d'un instant seulement, j'ai vu cet homme se lever et rendre gloire au Seigneur. Alors Dieu, si nous sommes disposés à confesser nos péchés et à faire ce qui est bien, à implorer sa miséricorde, à l'invoquer, Dieu est disposé, il est là qui attend de nous l'accorder. Maintenant, je sais qu'il fait chaud ici ce soir et c'est... Non, je crois que le chauffage est complètement éteint et nous sommes... J'ai constaté hier soir ou aujourd'hui que c'est mon septième jour dans une pièce sans lumière. Il n'y a que les lumières électriques, vous voyez, à étudier et à prier Dieu d'ouvrir ses sceaux. Et tellement de gens ont écrit dans le groupe de questionnaires ou de questions d'hier soir, c'était plus ou moins... Ce n'était pas tant des questions, c'était plutôt qu'il voulait avoir un service de guérison quand même. Il voulait qu'on reste un jour de plus pour avoir un service de guérison lundi. Alors, je le ferai. Je pourrais le faire si c'était là ce que les gens veulent faire. Vous pouvez y penser et me le faire savoir, mais si vous voulez simplement rester, y compris pour les malades, c'est que j'avais prévu de consacrer tout ce temps uniquement aux sceaux et je me suis isolé pour me concentrer sur les sceaux. Donc, vous pouvez y penser et prier pour ça et faites-moi savoir ce qu'il en sera. Et si le Seigneur le veut, je peux. Mon prochain rendez-vous est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et il y a encore quelques jours d'ici là. Et je dois retourner à la maison pour m'occuper de préparer une autre convention en Arizona. Et donc, si c'est la volonté du Seigneur, priez pour ça. Moi aussi, je vais prier et nous saurons plus à quoi nous en tenir un peu plus tard. Et je détecte à l'instant même, je vois, quand on se met à parler de maladie, c'est ce qui arrive, vous voyez. Je vois cette dame qui est assise juste ici. Si quelque chose ne vient pas à son secours, elle n'en aura plus que pour un très court laps de temps. Alors, vous voyez, nous prions simplement que Dieu va... C'est pour ça que vous êtes ici. Et vous êtes venu de très loin. Allez, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est vraiment tout, vous voyez. Alors, seulement, voyez-vous, je voulais consacrer ce temps-ci uniquement au saut, parce que c'est ce que nous étions proposés de faire, vous voyez. Mais combien y a-t-il de gens qui sont malades ici, qui sont venus pour qu'on prie pour eux? Levez donc la main dans la salle, partout. Oh là là! Eh bien, combien serait d'avis qu'il serait bon, la volonté du Seigneur, de rester pour faire cela, de consacrer la soirée de lundi à la prière pour les malades, d'avoir un service de guérison lundi soir? Est-ce que vous aimeriez le faire? Est-ce que ça vous serait possible? Eh bien, si le Seigneur le veut, c'est ce que nous ferons. Alors, voyez, nous aurons un service de prière pour les malades mercredi ou dimanche soir. Ou lundi soir, et nous prierons. Maintenant, j'espère que ça ne dérange pas le groupe avec lequel je dois rentrer et retourner en Arizona. Frère Norman est-il là quelque part? Est-ce que ça dérange tes projets, Frère Norman, ou quoi que ce soit? Frère Fred et les autres, est-ce que ça vous va? C'est d'accord? Très bien. Donc, si le Seigneur le veut, lundi soir, nous prierons pour les malades. Une seule soirée que nous consacrons uniquement à cela, juste à prier pour les malades. Là, il ne sera plus question des sceaux. Si le Seigneur le veut, bien ouvrir ses sceaux. Ensuite, nous prierons pour les malades lundi soir. Maintenant, oh, j'ai vraiment apprécié énormément de servir le Seigneur dans ces... Avez-vous apprécié ceci, l'ouverture des sceaux? Nous parlerons maintenant du cinquième saut, ou du sixième saut plutôt. Et celui-là, il va du verset 12, du chapitre 6, jusqu'au verset 27. C'est un des sauts qui sont longs. Il se passe pas mal de choses ici. Maintenant, pour reprendre un peu ce qu'on a vu hier soir, revenir un peu en arrière à chaque fois, et à propos, je voudrais ajouter quelque chose. J'ai trouvé dans cette boîte 4 ou 5 points que j'ai trouvé très importants. On m'a dit que, et je veux vraiment m'en excuser. Est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré? Je veux m'excuser auprès de mes frères prédicateurs et de vous, ici présents. On me l'a dit que l'autre soir, quand je parlais d'Élie, à l'heure où il se croyait le seul à partir dans l'enlèvement, ou le seul à être sauvé, j'ai dit 700 au lieu de 7000. C'est vrai, ça? Eh bien, j'en suis vraiment désolé, mes amis. Je le savais, pourtant, c'est simplement la langue qui m'a fourché, parce que je savais que c'était 7000. C'est tout simplement que je ne l'ai pas dit comme il faut. Et je vous remercie, ça montre, je suis content que vous soyez attentifs à ce que je dis. Et vous voyez, alors, c'est en effet, c'est 7000. J'ai eu 2 ou 3 billets là-dessus, où on disait, Frère Branham, je crois que vous avez fait erreur. On disait, est-ce qu'il n'était pas 7000 plutôt que 700? Je me suis dit, je ne peux pas avoir 1700 tout de même, vous voyez, cela. Et puis, Billy, ensuite, tout à coup, j'ai pris un autre billet. On disait, Frère Branham, je crois que vous avez 1700. Et une personne disait, Frère Branham, est-ce que c'était une vision spirituelle qui montrait que ce serait seulement un type et vous présenteriez le type avec les 7? Ça met les gens sous tension de se mettre à penser ces choses-là, vous voyez. Et il y a de quoi, ça, moi aussi, ça me met sous tension. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans ce saut a été révélé, si bien que j'ai dû sortir jusque dans la cour, me promener dans la cour pendant un moment. C'est vrai, j'en ai pratiquement eu le souffle coupé, vous voyez. Alors, vous parlez de tension? Oh là là! Autre chose, voyez-vous, vous vous accrochez à ce que je dis et Dieu va me rendre responsable de ce que je vous dis, voyez. Alors je dois être absolument sûr au possible, vous voyez, de ces choses, parce que c'est un temps prodigieux que celui où nous vivons, oui. Je pensais au service de guérison de lundi soir. Est-ce que ça dérangerait vos projets en quoi que ce soit, Frère Neville? C'est bien. Notre précieux Frère Neville, je vous le dis, ils n'en font qu'un. Je pense qu'ensuite, ils ont perdu le moule. Il a vraiment été un vrai copain et un ami pour moi, je vous le dis. Maintenant, La construction du tabernacle est terminée et on a des salles pour l'école du dimanche et tout a été préparé et mis en place. Et si certains d'entre vous qui demeurez dans les environs autour de Jeffersonville, vous voulez venir à l'église, vous avez un bel endroit et un endroit où vous pourrez venir avec des salles pour l'école du dimanche. Un bon professeur et frère Neville ici pour la classe des adultes et un vrai pasteur. Je ne dis pas ça pour le couvrir de fleurs, mais je préfère lui donner un petit rose tout de suite plutôt que toute une couronne après son départ. Frère Neville, je le connais depuis ma jeunesse et il n'a pas changé le moins du monde. Il est toujours Armand Neville, le même qu'il a toujours été. Je me souviens d'avoir fait une visite. Il avait même eu la bonne grâce de m'inviter à sa chaire quand il était prédicateur méthodiste ici en ville. Et nous avons eu une belle assemblée là-bas à Clarksville. Je pense que ça s'appelle l'église méthodiste de l'avenue Harrison de Howard Park. Ça doit être là-bas qu'il vous a trouvé sa neville là-bas parce qu'elle était aimante. Je suis revenu et j'ai dit à l'église ici, j'ai dit, c'était là, cet homme-là, il est gentil comme tout. Et un de ces jours, je vais le baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est arrivé. Le voici. Et maintenant, il est mon copain, il est là à mes côtés, et un homme tellement honorable, tellement respectable. Il m'a toujours soutenu comme du plus près qu'il a pu. Il m'appuie dans tout ce que je dis et s'y tient. Même au début, quand il est arrivé à l'époque, il ne comprenait pas le message, mais il le croyait et il s'y tenait. Un frère comme celui-là mérite d'être honoré, d'être respecté. Je ne tarie pas d'éloges sur lui, et donc que le Seigneur le bénisse bien. Maintenant, pour revenir un peu sur hier soir, l'ouverture du cinquième saut, ce soir, nous ne reprendrons pas jusqu'au début, nous allons seulement récapituler pour résumer le cinquième saut. Donc, nous avons vu que c'est l'Antichrist qui a chevauché et qui s'est retrouvé avec trois puissances. Celles-ci se sont regroupées en une puissance et il a monté le cheval de couleur pâle, la mort, jusque dans l'abîme, dans la perdition d'où il était sorti. Et puis nous avons vu que quand l'Écriture dit « Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui », nous avons vu cela parfaitement confirmé dans la parole hier soir, car il y a eu quatre êtres vivants qui ont riposté les quatre fois que ce cavalier a fait sa chevauchée. Et il montait un cheval différent chaque fois, un cheval blanc, et puis un cheval roux, puis un cheval noir, et puis un cheval de couleur pâle. Et nous avons vu ces couleurs et ce qu'elles représentaient et leur effet. Ensuite, nous avons ramené cela tout droit aux anges de l'Église, et c'est précisément ce qui s'était fait parfaitement. Par conséquent, vous voyez, quand les éléments de la parole de Dieu s'harmonisent ensemble, cela montre que c'est exact. Vous voyez? Oui, je crois que tout ce qui s'accorde avec la parole de Dieu, c'est toujours « Amen ». Vous voyez? Maintenant, par exemple, une personne qui dirait avoir une vision et qui dirait que c'était « Oh, ils savent que c'est le Seigneur qui l'a donné parce qu'elle est venue avec une grande puissance. » Eh bien, la vision, elle était peut-être très bien, mais si elle ne s'accorde pas avec la parole et qu'elle est contraire à la parole, elle n'est pas juste, vous voyez? Maintenant, il y a peut-être ici des frères ou des sœurs qui sont mormons. Et bon, il y en aura peut-être qui prendront les bandes, et je ne veux pas dire ça. Quelques-uns des plus gentils que je puisse rencontrer sont parmi les mormons. Ce sont de très braves gens. Et leur prophète Joseph Smith, que les méthodistes ont tué ici dans l'Illinois, quand il était passé par là. Et donc, ce brave homme et la vision, je n'ai aucun doute qu'il ait eu la vision. Je crois que c'était un homme sincère, mais la vision qu'il a eue était contraire à l'Écriture. Voyez? Par conséquent, il aura fallu avoir une Bible mormone pour que ça s'aligne, voyez? Quant à moi, ce qu'il faut, c'est ceci. Ceci, c'est pour cette raison que c'est la parole, et elle seule. C'est tout ce qu'il faut, voyez? Une fois, un prédicateur qui venait de l'étranger était arrivé, et je l'ai vu avec une... Il était en voiture, ce qui n'est pas avec une dame. Il était venu à une réunion. Et j'ai découvert qu'il avait roulé en voiture, lui et elle, tout seul, pendant 2 ou 3 jours pour la réunion, pour venir à la réunion ensemble. Et cette femme avait déjà été mariée 3 ou 4 fois. Et ce prédicateur est venu vers moi dans le hall de l'hôtel où j'étais. Il s'est empressé de venir me serrer la main. Je lui ai serré la main. Je me suis levé. J'ai parlé avec lui. Je lui ai demandé, j'ai dit, « Quand vous serez libre, est-ce que je pourrais vous parler un instant dans ma chambre? » Il a dit, « Certainement, frère Branham. » Je l'ai amené dans ma chambre et j'ai dit à ce prédicateur, j'ai dit, « Monsieur le pasteur, vous êtes un étranger dans ce pays. » J'ai dit, mais cette dame-là, elle a toute une réputation. J'ai dit, est-ce que vous avez fait tout ce trajet de tel et tel endroit jusqu'à tel et tel endroit ici? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, ne craignez-vous pas que ça puisse, je ne doute pas de vous, mais ne pensez-vous pas que ça pourrait tenir votre réputation en tant que prédicateur? Ne pensez-vous pas que nous devrions montrer l'exemple un peu mieux que ça? Il a dit, oh, cette dame est une sainte. J'ai dit, je n'en doute pas, mais j'ai dit, mes frères, ce qu'il y a, c'est que tous ceux qui la regardent ne sont pas des saints, voyez-vous, qui regardent ce que vous faites. Et j'ai dit, je crois que vous devriez faire attention. Je vous parle simplement comme un frère. Et il a dit, j'ai dit, cette dame a été mariée 4 ou 5 fois déjà. Et il a dit, oui, je sais. Et il a dit, vous savez, j'ai dit, ce n'est pas ce que vous enseignez à votre église chez vous, n'est-ce pas ce genre de choses? Il a dit, non, mais il a dit, vous savez, j'ai eu une vision à ce sujet, frère Branham. J'ai dit, eh bien, tant mieux. J'ai dit, il a dit, si vous n'y voyez pas d'objection, il a dit, je crois que je pourrais rectifier un peu ce que vous enseignez à ce sujet. Et j'ai dit, très bien. Il a dit, je serais bien content de savoir, monsieur. Il a dit, eh bien, il a dit, vous savez, pendant cette vision, il a dit, je dormais. Et j'ai dit, oui. Alors, j'ai vu que c'était un rêve, vous voyez. Il a dit, mon épouse, il a dit, elle avait eu une liaison avec un autre homme, et il a dit, elle m'avait été infidèle. Il a dit, ensuite, elle est venue vers moi, et elle m'a dit, oh, chérie, pardonne-moi. Elle a dit, je regrette d'avoir fait ça. À partir d'aujourd'hui, je te serai fidèle. Et il a dit, naturellement, que je l'aimais tellement que je lui ai simplement pardonné. J'ai dit, d'accord. Il a dit, ensuite, il a dit, vous savez quoi? Ensuite, j'ai eu l'interprétation de cette vision. Il a dit, la femme, c'était elle. Il a dit, bien sûr, elle est mariée. Et toutes ces fois, il a dit, il n'y a pas de mal à ce qu'elle se marie parce que le Seigneur l'a tellement aimée, elle peut se marier autant de fois qu'elle le désire pour autant que... J'ai dit, votre vision, elle était bien charmante, mais elle était très loin du sentier battu ici. J'ai dit, c'est mal, ça, voyez-vous. Vous ne devriez pas le faire, alors cela, vous voyez. Mais quand vous voyez les Écritures qui s'emboîtent l'une dans l'autre et qu'il y a constamment une continuité, qu'elles s'enchaînent, les Écritures, là où celle-ci s'arrête, celle-là vient s'y emboîter pour présenter le tableau global. C'est comme quand on assemble un puzzle, des mots croisés, par exemple. Vous devez trouver la pièce qui s'ajustera là. Rien d'autre ne pourra s'y ajuster. Et à ce moment-là, vous avez le tableau comme il faut. Et il n'y en a qu'un qui puisse faire cela, c'est l'agneau. Et c'est pourquoi nous comptons sur lui. Mais nous voyons que quand ces cavaliers, c'était un seul cavalier qui montait ses chevaux. Et puis, nous l'avons suivi d'un bout à l'autre, nous avons vu ce qu'il a fait et tout, et nous avons constaté que c'est exactement ce qu'il avait fait au cours des âges à l'Église. Donc, quand on lui sortait sur un terrain, un certain animal, et qu'il faisait une certaine chose, nous avons vu qu'il y en avait un qui était envoyé pour combattre ce qu'il faisait. Il y en avait un qui était envoyé pour le premier âge, l'agneau, le lion, c'était la parole, bien sûr, Christ. Ensuite, il y a eu le bœuf pendant l'âge des ténèbres, quand l'Église s'était organisée, qu'elle avait accepté des dogmes au lieu de la parole. Et souvenez-vous, toute la chose est basée sur 2 choses. L'une, l'Antichrist, l'autre, le Christ. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Les demi-chrétiens, ça n'existe pas. Un homme qui a bu, qui n'a pas bu, ça n'existe pas. Des oiseaux blancs qui sont noirs non plus. Non, non. Des saints qui sont pécheurs non plus. Non. Ou bien vous êtes un pécheur, ou bien vous êtes un saint. Vous voyez, il n'y a tout simplement pas de demi-mesure. Ou bien vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou bien vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Peu importe combien de sensations vous avez pu avoir, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'en êtes pas rempli, vous voyez. Et si vous en avez été rempli, votre vie le montre. Elle s'aligne avec. Vous voyez, personne n'a besoin de le dire à qui que ce soit. Il le voit. Et vous voyez, parce que c'est un sceau. Bon, et nous avons vu ces animaux, alors qu'ils faisaient leur chevauchée, chaque fois l'un a été envoyé pour accomplir son ministère avec les puissances politiques. Il a uni les puissances religieuses et les puissances politiques. Nous avons vu que Dieu a envoyé sa puissance pour le combattre. Nous sommes retournés voir ce qu'il en avait été de l'âge de l'Église. Nous avons regardé cela et voilà, ça s'était passé exactement comme ça. Ensuite, nous avons vu qu'il y a eu un autre âge et l'ennemi a envoyé l'Antichrist sous le nom de la religion, sous le nom de Christ, sous le nom de l'Église. Oui, monsieur. Il est même sorti sous le nom de l'Église. Il disait que c'était la vraie Église, voyez. L'Antichrist, ce n'est pas la Russie. L'Antichrist, ce n'est pas ça. L'Antichrist ressemble tellement au vrai christianisme que la Bible a dit que tous ceux qui n'étaient pas prédestinés s'y laisseraient prendre. C'est vrai. La Bible a dit que dans les derniers jours, tous ceux qui n'étaient pas prédestinés, les élus, il est dit, les élus, maintenant n'importe qui, reportez-vous à la note en marge, vous verrez ce que ce mot veut dire. Il est dit, ceux qui sont élus, prédestinés, voyez, tous ceux dont le nom n'était pas dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde, s'y laisseront prendre. Quand l'agneau a été immolé, les noms ont été mis dans le livre. Il est là, dans le lieu saint ce soir, dans la gloire, en tant qu'intercesseur, en train d'intercéder pour toutes les âmes dont le nom est dans ce livre. Et personne ne connaît ce nom sauf lui. C'est lui qui a le livre dans sa main et il sait. Quand le dernier entrera, alors les jours de son intercession seront terminés. Il s'avancera alors pour réclamer ce pourquoi il a intercédé. En ce moment, il a accompli l'œuvre du parent rédempteur, puis il s'avance pour prendre les siens avec lui. Oh là là! Voilà qui devrait pousser chaque chrétien à s'examiner, à lever les mains vers Dieu et à dire « Purifie-moi, ô Seigneur, sonde ma vie et fais-moi voir mes travers, que je m'en débarrasse au plus vite. » Car si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie? C'est l'heure de s'examiner. Et si vous voulez... Et si vous voulez situer ça et que vous désirez et avoir la parole pour ça, maintenant, je ne voudrais pas que vous me posiez une question là-dessus parce que je sortirai complètement du sujet. Je veux dire, vous écrivez vos questions. Je pense que les questions sont déjà là. De toute façon, c'est maintenant l'heure de l'enquête pour le jugement. C'est vrai. Or, nous le verrons lorsque nous en arriverons aux trompettes, quand le Seigneur y pourvoira ou aux coupes. Et nous verrons ce qu'il en est de cette enquête pour le jugement qui se produit juste avant les malheurs. Et nous verrons que c'est bien vrai. Et les trois anges sont descendus sur la terre en criant, vous savez, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Et nous vivons un temps prodigieux, un temps où... Vous voyez, ces choses que nous voyons maintenant, que nous étudions en ce moment, elles se passent une fois que l'Église est déjà partie. Voyez-vous? Ces choses font partie de la période de la tribulation. Voilà, d'après moi, une question qui devrait être parfaitement réglée dans le cœur de tous les croyants. Cette Église ne passera jamais par la période de tribulation. Vous ne pouvez pas situer l'Église nulle part dans la tribulation. Je vais situer l'Église, mais pas l'épouse. Voyez, l'épouse est déjà partie. En effet, voyez, elle n'est pas un seul péché. Il n'y a absolument rien contre elle. La grâce de Dieu l'a complètement couverte. Et le décolorant a envoyé chaque péché tellement loin qu'il n'y en a même pas la moindre souvenir. Rien d'autre que la pureté parfaite dans la présence de Dieu. Oh, voilà qui devrait pousser l'épouse à se mettre à genoux et à crier à Dieu. Je pense à une petite histoire, si je ne prends pas trop votre temps, là, dans ce préambule, si je le fais, c'est dans un but, c'est pour sentir ce que j'attends de sentir, que l'Esprit nous est propice avant de commencer. Ceci, c'est quelque chose de sacré, voyez. C'est, voyez-vous, qui connaît ces choses-là? Personne d'autre que Dieu. Elles ne sont pas censées être révélées, et la Bible démontre qu'elles ne seraient pas révélées avant ce jour-ci. C'est tout à fait exact, voyez. Et elles ont fait l'objet de suppositions, mais maintenant, nous sommes censés connaître précisément ce qu'il en est, la vérité confirmée. Voyez, remarquez. Donc, il y avait une jeune fille de l'Ouest, et elle était tombée amoureuse d'un... Un acheteur de bétail était allé s'installer là-bas pour le compte de la compagnie d'Armour. Et il avait... Un jour, le patron est arrivé, le fils du patron de Chicago. Et naturellement, ils ont mis leurs vêtements traditionnels du Far West. Les filles, là, elles se sont mises en grande toilette. Chacune d'elles se proposait de conquérir ce garçon, c'est sûr, vous savez, parce que c'était le fils du patron. Alors, elles ont mis leurs vêtements du Far West. Et c'est ce qu'ils font dans l'Ouest. Ils ont un événement du genre dernièrement. Et frère McGuire, je pense qu'il est ici en ce moment. Il s'est fait prendre en ville sans vêtements du Far West. Alors, ils l'ont jeté en prison. Ils l'ont fait passer devant un tribunal bidon et lui ont fait payer l'amende pour ça. Ensuite, ils l'ont obligé à s'acheter un costume du Far West et j'ai vu les autres qui se promenaient avec des pistolets à peu près longs comme ça sur eux. Ils se conduisent vraiment comme des indigènes là-bas. Ils essaient de revivre les jours du passé. Le passé, voyez? Et puis, au Kentucky, vous essayez de revivre les jours de l'Est ici, encore à l'époque de Renfrew Valley et tout. Vous aimez retourner aux jours anciens. Il y a quelque chose qui cause cela. Mais quand il s'agit de revenir, de retourner à un évangile originel, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez quelque chose de moderne, vous voyez. Cela montre bien que vous, voyez-vous, vous, Qu'est-ce qui vous pousse un homme à mal agir? Qu'est-ce qui le pousse à boire et à faire des choses déplacées? Ou qui pousse une femme à mal agir? C'est parce qu'elle essaie, il y a quelque chose en elle qui a soif, il y a quelque chose en lui qui a une soif. Il essaie d'étancher cette soif sacrée par les choses du monde, alors que c'est Dieu qui devrait l'étancher. Il vous a fait comme ça pour que vous ayez soif. Voilà la raison pour laquelle vous avez soif de quelque chose. Dieu vous a fait comme ça pour que vous dirigiez cette soif sacrée vers lui. Voyez, mais quand vous essayez d'étancher cette soif, comment quelqu'un peut-il oser faire ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça, d'essayer d'étancher cette soif sacrée, cette soif que vous avez de quelque chose, et puis que vous l'abandonniez au monde et que vous essayez de la satisfaire par le monde. Vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'une chose qui puisse combler cela, et c'est Dieu. Et il vous a fait comme ça. Donc, ces jeunes filles ont mis leur accoutrement traditionnel du Far West pour ce garçon quand il est allé là-bas. Et toutes, elles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon. Il y avait une petite cousine dans ce ranch et c'était une orpheline. Et alors, elle faisait tout le travail pour les autres. En effet, il fallait qu'elle ait des ongles faits, vous savez, elle ne pouvait pas laver la vaisselle à cause de leurs mains et tout. Et c'est elle qui faisait tout le travail vraiment dur. Et donc, finalement, quand le garçon est arrivé, ils sont allés le chercher à l'ancienne mode du Far West et en chariot. Et ils sont arrivés en tirant des coups de feu et à beaucoup de désordre, vous savez, en se conduisant mal. Et ce soir-là, il y a eu une immense soirée de danse là-bas et de la danse à l'ancienne mode. Et tous les propriétaires de ranch des environs, ils sont venus et ça dansait partout et tout. Et puis, voilà que bon, cela a duré. Il y a eu un jubilé pendant 2 ou 3 jours. Et puis, un soir, ce garçon est sorti jusque du bâtiment juste pour s'accorder un instant de répit pendant la soirée de danse. Il s'est dégagé un peu de ses filles. Et comme il regardait tout bonnement du côté du choral, une jeune fille passait par là. Elle avait l'air assez miséreuse. Et elle avait une bassine pleine d'eau. Elle avait lavé la vaisselle. Il s'est dit, je ne l'ai encore jamais vue, celle-là. Je me demande bien d'où elle peut sortir. Alors, il décide simplement d'aller de ce côté-là, en longeant le dortoir, d'aller là-bas et de revenir du côté du corral. Il est allé la voir. Elle était nu-pied. Elle s'est arrêtée. Elle tenait la tête basse. Elle avait vu qui c'était et elle était très timide. Elle savait que c'était quelqu'un d'important et elle n'était que la cousine de ses autres filles. Leur père était contremaître de cette grande compagnie Armour, alors elle gardait les yeux fixés à terre. Elle avait honte parce qu'elle était nu-pied. Il a dit, « Comment t'appelles-tu? » Elle lui a dit, et il a dit, « Pourquoi n'es-tu pas là-bas avec les autres? » Elle se cherchait des excuses. Alors, le lendemain soir, il guettait l'occasion de la revoir. Finalement, il était assis là et tout le monde s'était mis à s'exciter et tout. Il s'est assis sur la clôture du corral et il guettait le moment où il viendrait jeter son eau de vaisselle. Il l'a observé. Il a dit, « Sais-tu quelle est la vraie raison pour laquelle je suis ici? » Elle a dit, « Non, monsieur, je ne sais pas. » Il a dit, « La raison pour laquelle je suis ici, c'est que je cherche une épouse. » Il a dit, « Je trouve en toi un caractère qu'elles n'ont pas. » Je pense à l'Église, vous voyez. Il a dit, « Veux-tu m'épouser? » Elle a dit, « Moi? Moi? » C'est impensable, ça, pour moi. Vous voyez, c'était là le fils du grand patron. Il était propriétaire de toutes les compagnies, de tous les ranchs de la région et tout, vous voyez. Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Je n'ai pas trouvé à Chicago. Je veux une vraie épouse. Je veux une épouse qui ait du caractère. Et ce que je recherche, je le vois en toi. » Il a dit, « Veux-tu m'épouser? » Elle a dit, eh bien, elle était sous l'effet de la surprise et elle a dit, oui. Il a dit, eh bien, il lui a dit qu'il reviendrait. Il a dit, maintenant, tu n'as qu'à te préparer et dans un an, je reviendrai. Eh bien, et je viendrai te chercher et je t'amènerai loin d'ici. Tu n'auras plus à travailler comme ceci. Je vais t'amener, je vais retourner à Chicago et je vais te construire une maison comme tu n'en as jamais vu de pareil. Elle a dit, je n'ai jamais eu de maison. Je suis orpheline, elle a dit. Et j'ai dit, je vais te construire une maison, une vraie. Et j'ai dit, je reviendrai. Il est resté en contact avec elle pendant ce temps, pendant l'année. Elle a travaillé autant qu'elle a pu pour économiser assez d'argent avec son salaire $1 par jour ou ce qu'elle gagnait en plus d'être en pension pour pouvoir acheter sa robe de mariée. Un type parfait de l'Église, voyez. Elle a préparé ses vêtements. Et vous savez, quand elle leur a montré ce vêtement de noces, ses cousines ont dit, « Voyons, pauvre petit imbécile, t'imagines-tu qu'un homme comme lui aurait quoi que ce soit à voir avec toi? » Et elle a dit, « Mais il me l'a promis. » Amen. Elle a dit, « Il a promis. » Elle a dit, « Je crois sa parole. » Oh, il s'est simplement payé ta tête. Elles ont dit, s'il avait eu à choisir une, il aurait choisi une des nôtres, des autres. Oui, il a dit, mais c'est à moi qu'il a promis, je l'attends. Amen. Moi aussi. Donc, le temps avançait de plus en plus. Finalement, le jour est arrivé où il devait être là à une certaine heure. Alors, elle a mis son vêtement et elle n'avait même pas eu de ses nouvelles. Mais elle savait qu'il serait là. Alors, elle s'est habillée avec ses vêtements de noces, elle a préparé ses choses. Eh bien là, elles en ont vraiment rigolé un coup. En effet, le grand patron avait communiqué avec le contremaître ou avec aucune des filles n'était au courant de quoi que ce soit. Alors, tout ça, c'était bien mystérieux pour elle, et ça l'est aussi, absolument. Mais cette jeune fille, en dépit de tout cela, elle s'appuyait sur ce que lui avait dit, qu'il reviendrait la chercher. Alors, elles se sont mises à rigoler. Elles se sont prises par la main. Elles faisaient la ronde autour d'elle. Elle disait, « Ah! » Elle rigolait, vous savez, comme ça. Elle disait, « Pauvre enfant imbécile! » Elle est restée là. Elle n'a pas rougi le moins du monde. Elle tenait ses fleurs et son vêtement de noces était bien en place. Elle avait lutté, vous savez. Son épouse s'est elle-même préparée. Voyez, elle tenait toujours ses fleurs. Elle attendait. Elles ont dit, « Je te l'avais bien dit que c'était faux. Tu vois, il ne viendra pas. » Elle a dit, « Il me reste encore 5 minutes. » Elle a dit, « Il sera là. » Oh, elle n'arrêtait pas de rire. La vieille pendule achevait de battre les 5 minutes quand elles ont entendu le galop des chevaux, le sable qui glissait sous les roues. Le vieux chariot s'est arrêté. Elle les a écartées d'un bond. Elle a passé la porte. Elle a sauté du chariot. Elle s'est jetée dans ses bras. Elle a dit, « Tout est terminé, ma chérie. » Ses petites cousines dénominationnelles, elles sont restées assises là à regarder. Et elle est allée à Chicago vers sa maison. Je connais encore une autre glorieuse promesse comme celle-là aussi. Je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Ils peuvent être dire que nous sommes fous. Mais frère, quant à moi, en ce moment, de voir ces seaux en train de se briser comme ceci, sous cette action surnaturelle, je peux presque entendre le son, alors que la pendule du temps continue son tic-tac jusque dans l'éternité là-bas. Je peux presque voir cet ange se tenir là et dire, à la fin du message du 7e ange, il n'y aura plus de temps. Cette petite épouse loyale s'envolera dans les bras du Jésus un de ces jours. Elle sera amenée à la maison du Père, pensant ces choses, alors que nous continuons maintenant à avancer. Remarquez le ministère du lion, la parole, le bœuf, le labeur et le sacrifice, le savoir-faire des réformateurs et l'âge de l'aigle qui arrive, qui doit révéler et saisir ces choses-là pour les montrer. Maintenant, nous avons aussi vu à la réunion d'hier soir le grand mystère qui a été dévoilé par ce sceau et qui était absolument contraire à ma compréhension antérieure. Je ne faisais que présumer que c'était juste. J'avais toujours cru que ces anges sur l'autel étaient les premiers martyrs chrétiens. Mais nous avons vu hier soir, quand le Seigneur Dieu a brisé ce sceau pour nous, que c'est absolument impossible. Ce n'était pas eux. Eux, ils étaient déjà dans la gloire, complètement de l'autre côté. Et c'était là, nous avons vu que c'était des Juifs suscités à l'époque de... avec l'appel maintenant des 144 000 et que nous allons voir ce soir et demain, et que c'est entre le 6e et le 7e sceau que les 144 000 sont appelés. Et donc, nous avons vu que c'était des martyrs qui avaient été tués, et pourtant, ils n'avaient pas été. Ils avaient des robes blanches, mais leur nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau. Et chacun d'eux avait reçu une robe blanche. Nous l'avons vu. Je ne crois pas qu'il puisse s'agir d'autre chose que de ce groupe des Juifs qui ont passé par une période de pré-tribulation. Alors, au cours de cette dernière guerre, ils ont été haïs par tout le monde. Et Eichmann en a tué des millions en Allemagne. Vous venez d'entendre le procès? Des millions d'innocents ont été tués, des Juifs. Pour la simple raison qu'ils étaient juifs, aucune autre raison. La Bible dit ici qu'ils avaient été immolés à cause de leur témoignage de Dieu, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Or, nous avons vu que l'épouse, elle, c'était la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ceux-là n'avaient aucun témoignage de Jésus-Christ. Et nous voyons que la Bible dit que tout Israël prédestiné sera sauvé. Romains 11. Or, nous savons ça, et nous avons vu les âmes là-bas. Maintenant, regardez comme c'est proche. Pourquoi est-ce que ceci n'aurait pas pu se passer avant? Parce que cette chose-là n'était pas encore arrivée avant. Maintenant, vous pouvez voir ce qu'il en est, voyez-vous? Vous voyez le glorieux Saint-Esprit. Il avait vu que ces choses allaient arriver tout au long des âges et des époques, et maintenant, c'est en train d'être révélé. Alors, vous pouvez regarder là-bas et voir que c'est la vérité. Voilà bien ce qu'il en est. Donc, c'était les martyrs de la tribulation ou de la pré-tribulation d'Eichmann. Or, ceux-là ne sont que le type des martyrs, des 144 000, ce que nous abordons entre le sixième et le septième sceau. Voyez? Et pour le septième sceau, il n'y a qu'une chose, c'est tout. Et c'est ceci. Il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Et maintenant, il n'y a que Dieu qui puisse révéler cela. Ce n'est même pas symbolisé nulle part. Ça, c'est pour demain soir. Priez pour moi, voyez. Maintenant, nous remarquons là, alors que nous abordons le sixième sceau, maintenant que le Père Céleste nous aide, alors que nous fixons maintenant notre attention sur ce sixième sceau. Donc, le verset 12 du chapitre 6. « Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » Vous remarquez là? Regardez ces puissants, vous voyez? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient bu du vin, de la fureur, de la fornication, de la prostituée, vous voyez? C'est précisément cette classe de gens-là qui avaient bu de son vin, vous voyez? Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous dans la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Quelle introduction à... Vous voyez maintenant le cavalier, les animaux du cavalier et les êtres vivants qui ripostaient, ils ne sont plus là. Et ensuite, nous avons parlé, nous avons vu les martyrs sous le trône. Or, ceci, ceux de cette époque, ces martyrs, ce sont les vrais Juifs orthodoxes qui sont morts dans la foi chrétienne, dans la foi religieuse, parce qu'ils ne pouvaient pas être chrétiens. Souvenez-vous, Dieu a aveuglé leurs yeux et ils seront aveugles pendant longtemps, jusqu'à ce que l'Église des nations soit ôtée du chemin. En effet, Dieu ne traite pas avec les deux en même temps, parce que ce serait très contraire à sa parole. Souvenez-vous, il traite avec Israël en tant que nation, toujours. C'est la nation d'Israël. Les nations, elles, c'est en tant qu'individu, un peuple choisi du milieu des nations. Et il le fallait, c'est des nations, de former, être formé de tous les peuples du monde. Et c'est pourquoi, de temps en temps, il y aura un Juif qui entrera, vous voyez, au même titre qu'un arbre, un Irlandais, un Indien, et quoi encore. Ce sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de l'épouse, vous voyez. Mais maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël à ce moment-là, dans cette dernière partie de la 70e semaine, il traite avec eux en tant que nation. Quant aux gentils, c'est terminé. L'heure est proche. Et ça peut être encore être ce soir même que Dieu se détournera complètement des gentils. Assurément. Il l'a dit. Ils fouleront au pied les murs de Jérusalem jusqu'à la fin de la dispensation des nations, la fin de cette époque. Oui, monsieur. Et alors que celui qui est souillé demeure souillé, que celui qui est juste pratique la justice, voyez? Il n'y a plus de sang sur le trône, dans le sanctuaire du tout. Il n'y a plus de sang sur l'autel. Le sacrifice a été retiré. Et il ne reste plus que de la fumée, des éclairs, le jugement à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui est déversé ici ce soir. Vous voyez, l'agneau n'est plus à son œuvre de médiation. L'œuvre de la médiation sur le trône, là-bas, est terminée. Et le sacrifice, comme nous l'avons typifié d'une façon parfaite, le parent rédempteur, l'agneau sanglant qui s'est avancé, un agneau qui avait été immolé, un agneau sanglant qui avait été tué, meurtri, s'est avancé, il a pris le livre de sa main, voilà, les jours sont terminés, maintenant il vient réclamer ce qu'il a racheté. Amen. Rien que d'y penser, j'en frémis. Maintenant, nous voyons que Jean a dit, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau et il y avait eu un grand tremblement de terre. Alors, la nature tout entière a suspendu son cours. Voyez, Dieu a fait de grandes choses comme de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles et il a accompli une grande œuvre. Mais nous voyons ici qu'il y a eu un chambardement de la nature. Oui, de toute la nature. Regardez ce qui s'est passé. Le tremblement de terre, le soleil s'est obscurci et la lune a refusé de donner sa lumière et les étoiles ont été secouées et sont tombées. Mais tout est arrivé, vous voyez, juste au moment de l'ouverture de ce sixième sceau. C'est à ce moment-là que cela arrive, tout de suite après l'annonce de ces martyrs. Vous voyez, c'était après les martyrs. Or, vous voyez, on va très bien tôt voir sonner cette heure-là. On le pourrait à tout moment, vous voyez? Parce que l'Église est presque prête à s'envoler. Mais souvenez-vous, quand ces choses-là arriveront, l'épouse ne sera pas ici. Souvenez-vous-en, l'épouse est partie. Elle n'a à subir rien de tout cela. Ceci est un temps de tribulation, de purification pour l'Église. Cela lui est infligé, elle doit passer par là, mais pas l'épouse. Il ôte sa bien-aimée du chemin, oui, monsieur. Il l'a déjà rachetée. Vous voyez, c'est un peu comme c'est sa sélection à lui, son choix à lui, comme n'importe quel homme choisit son épouse. Vous voyez, maintenant le tremblement de terre, maintenant comparons les passages des Écritures. Je voudrais, avez-vous apporté un crayon du papier et je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous voulez écrire, écrivez ceci parce que, à moins que vous ayez l'intention de prendre la bande. Maintenant, je voudrais que vous lisiez avec moi en même temps. Nous allons comparer les passages de l'Écriture en rapport avec cet important événement pour voir le grand secret ou le mystère qu'il y avait sous le sixième sceau du livre de la rédemption. Maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères cachés. Et les six sceaux ensemble, ils forment un très grand livre. Simplement six rouleaux ensemble. Et c'est ce qui dénoue tout le livre de la rédemption. C'est comme ça que la terre tout entière a été rachetée. Voilà la raison pour laquelle Jean pleurait. C'est parce que si personne ne pouvait prendre ce livre, toute la création, tout était perdu. Elle retournait tout simplement aux atomes et aux molécules et ainsi de suite, à la lumière cosmique, et il n'y aurait même plus ni création, ni personne, ni rien d'autre. En effet, Adam a perdu lorsqu'il a écouté au lieu de la parole de Dieu, vous voyez, il avait été confisqué. Ensuite, il ne pouvait pas retourner dans les mains sales de Satan qui avait fait sortir Ève du chemin en la tenant. Et par conséquent, il est retourné à son propriétaire original, comme il en serait de tout titre de propriété incontestable. Vous voyez, il retourne tout droit à son propriétaire original, c'est-à-dire à Dieu, le Créateur qui l'avait rédigé. C'est lui qui le détient. Il y a un prix à payer. C'est celui de la rédemption. Il y avait un prix à payer pour la rédemption et personne ne pouvait la payer. Donc, il a dit, il a fait ses lois, ses propres lois du parent rédempteur. Et puis, il ne pouvait trouver personne. Chaque homme était né par le sexe, né à la suite d'un désir sexuel. Il avait part au péché originel, Satan et Ève. Alors, il ne pouvait pas. Il n'y avait rien en lui. Aucun saint, pape, prêtre, docteur en théologie, qui que ce soit, personne n'en serait digne. Et ce ne pouvait pas être un ange, parce qu'il fallait qu'il soit un parent. Il devait être un homme. Alors, Dieu lui-même, est devenu un parent en revêtant une chair humaine par la naissance virginale. Il a versé son sang. Ce n'était pas le sang d'un juif, ce n'était pas le sang d'un non-juif, c'était le sang de Dieu. Voyez, la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le sang de l'enfant vient du Père. Nous le savons, c'est toujours le sexe masculin qui fournit l'hémoglobine. Donc, nous voyons que c'est comme la poule qui pond un œuf. Elle peut pondre un œuf, mais si le coq ou le compagnon n'a pas été avec elle, il n'éclora pas. Il n'est pas fertile. La femme n'est que l'incubateur qui porte l'ovule. Mais l'ovule vient, le germe vient du mâle. Et dans ce cas-ci, le mâle, c'était Dieu lui-même. Voilà ce qui me fait dire que ce qui est en bas, qui est en haut, et qu'est-ce qui est petit, qui est grand. Dieu était tellement grand qu'il est devenu, qu'il s'est lui-même formé dans une chose tellement minuscule, un minuscule petit germe dans le sein d'une vierge, et c'est autour de cela qu'il a développé les cellules et le sang. Et il est né, il a grandi sur terre. Et après avoir commencé comme ça, sans mélange, sans aucun désir sexuel du tout, ensuite, il a donné ce sang parce qu'il nous était devenu parents. Il était le parent rédempteur. Il a versé ce sang volontiers. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a donné volontiers pour racheter. Ensuite, il va sur l'autel de Dieu et il attend là pendant que Dieu tient le livre de la rédemption dans ses mains et l'agneau sanglant est là sur l'autel du sacrifice. L'agneau est là pour accomplir la rédemption, pour intercéder. Alors comment peut-on oser dire que de Marie ou de Joseph ou de tout autre mortel qu'il peut être un intercesseur? On ne peut pas intercéder à moins qu'il y ait du sang, là. Oui, monsieur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Jésus-Christ. C'est ce qui dit l'Écriture. Il en restera là jusqu'à ce que la dernière âme ait été rachetée, et ensuite il s'avance pour réclamer ce qu'il a racheté. Oh, qu'il est grand, notre Père! Maintenant, souvenez-vous, maintenant, j'ai toujours enseigné que sur la déclaration de deux ou de trois témoins, que toute parole soit établie. Et l'Écriture, vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un passage de l'Écriture pour prouver quoi que ce soit, à moins qu'il y ait autre chose qui s'accorde avec. Voyez-vous, je peux prendre un passage de l'Écriture et dire « Judas est allé se pendre », en prendre un autre et dire « Va faire demain », voyez, mais voyez-vous, ça ne s'accordera pas avec le reste. Et j'ai pensé sous ce sixième sceau, quand le Saint-Esprit l'a dévoilé, et là, et que j'ai vu ce que c'était, alors j'ai pensé qu'il serait bon de donner à mon auditoire quelque chose d'un peu différent ce soir. Voyez, en effet, vous pourriez trouver fatigant d'avoir à m'écouter parler tout le temps, alors j'ai pensé qu'on ferait quelque chose de différent. Maintenant, remarquez, ce grand événement était scellé sous le livre de mystère de la rédemption. Maintenant, l'agneau l'a dans sa main, il va le dévoiler. Maintenant, regardons Matthieu, chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Or, Christ, tout le monde le sait, est l'auteur du livre tout entier, bien entendu. Mais ici, c'est son discours ou son sermon au peuple, très bien, aux Juifs. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre comme ceci, à Matthieu 24 et à Apocalypse 6 comme ceci. Et comparons un peu quelque chose ici. Maintenant, regardez bien ceci, là, et vous allez voir précisément ce qu'il en est. Voyez ce que l'agneau fait. Il montre ici, en symbole, exactement ce qu'il avait annoncé là, en parole. C'est exactement ce qu'il fait. Et voilà qu'il prouve que c'est juste. Alors, c'est aussi simple que ça. Ici, d'une part, il en parle ici. C'est quand c'est arrivé, vous voyez, c'est tout simplement une confirmation parfaite. Bon, maintenant, regardons le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de Matthieu. Nous savons tous que c'est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes se sont référées pour parler de la période de la tribulation. On la trouve au chapitre 24 de Matthieu. Et maintenant, si c'est le cas, maintenant, nous, en effet, nous savons que ce sixième sceau est le sceau du jugement. C'est le sceau du jugement. Et c'est exactement cela. Maintenant, vous voyez, nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Nous avons vu l'Église partir. Maintenant, pour elle, c'est terminé. Elle monte. Ensuite, nous voyons les martyrs, les Juifs là-bas sur l'autel. Et maintenant, voici le jugement qui s'abat sur les gens qui sont de ce jugement de la tribulation. Sortiront les 144 000 Juifs rachetés. Je vais vous prouver qu'ils sont juifs et non pas des nations. Ils n'ont rien à voir avec l'épouse, rien du tout. L'épouse, nous l'avons vue, elle est déjà partie. Il n'y a pas moyen de la situer ailleurs, nulle part. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Maintenant, remarquez, en effet, le sixième sceau est le sceau du jugement de la parole. Bon, ici, commençons maintenant et lisons dans Matthieu, chapitre 24. Maintenant, j'aimerais juste vous apporter quelque chose ici que je viens de vérifier. Donc, Matthieu, de 1 à 3, eh bien, c'est là que nous allons commencer notre lecture. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il n'y aura, restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Maintenant, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand ces choses arriveront, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Bon, arrêtons-nous là. Ces trois versets, en fait, ils se sont passés le mardi après-midi, 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Et les deux premiers versets se sont passés l'après-midi du 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Et le verset 3 s'est passé le mardi soir du même jour, vous voyez? Ils étaient allés au temple et ils lui ont demandé ces choses. Qu'en est-il de ceci et qu'en est-il de ceci? Regarde ce grand temple, n'est-il pas magnifique? Il a dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Ensuite, il est monté sur la montagne et il s'est assis, vous voyez, là, quand il commençait l'après-midi. Et ensuite, quand il était là-haut, ils lui ont demandé, ils ont dit, nous voulons savoir certaines choses. Maintenant, remarquez ici, il y a trois questions qui sont posées par les Juifs, par son disciple. Trois questions sont posées. Maintenant, regardez bien. D'abord, quand ces choses arriveront-elles? Quand il ne restera pas pierre sur pierre? Quel sera le signe de ta venue? Deuxième question. Et de la fin du monde? Le voyez-vous? Il y a trois questions. Maintenant, c'est là que beaucoup d'hommes font leur erreur. Ils appliquent ces choses ici à une époque du passé, alors que, voyez-vous, il répond à trois questions. Maintenant, regardez comme c'est beau. Le verset 3, vous voyez le dernier bout du verset 3, là? Et quel sera? D'abord, ils l'ont pris à part ici, sur la montagne des Oliviers. Dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Question numéro 1. Quel sera le signe de ta venue? Question numéro 2. Et de la fin du monde? Question numéro 3. Vous voyez, il y a trois questions distinctes qui sont posées. Bon, maintenant, je voudrais que vous preniez l'autre page et regardez bien ici la façon dont Jésus leur parle de ces choses. Oh, c'est tellement beau. Je me sens tout simplement, je suis gagné par la... Quel était ce mot qu'on employait l'autre soir? La stimulation de la révélation. Remarquez. Bon, maintenant, prenons le premier sceau des sceaux de ce livre. Et comparons le premier sceau à cette première question. Et pour chaque question, nous allons faire la comparaison et nous allons voir que tout cela s'accorde parfaitement, exactement comme nous l'avions fait à l'ouverture de tous les autres, avec les anges de l'Église et tout, c'est exactement pareil. Alors, le sceau est ouvert d'une façon parfaite à ce moment-là. Remarquez. Bon, d'abord, nous allons lire ce qu'il en est de... Alors, il leur répondit, et alors, il va commencer à répondre là, et nous voulons comparer cela au sceau. Maintenant, regardez. Le premier sceau, c'est Apocalypse 6, 1, 2. Maintenant, lisons le 6, 1 et 2. Je regardais l'agneau quand il ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Je regardais, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous avons vu que ce personnage, c'était qui? L'Antichrist, Matthieu 24, maintenant 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous le voyez, l'Antichrist, voilà votre sceau. Vous voyez, voyez? Il en a parlé ici, et ici, il ouvre un seau, et le voilà, c'est simplement parfait. Maintenant, le deuxième seau, Matthieu 24, 6, Apocalypse 6, 3 et 4. Maintenant, regardez bien, Matthieu 24, 6. Bon, voyons voir ce qui est dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Très bien. Prenons le deuxième sceau, Apocalypse 6, 3 et 2. Regardez bien ce qu'il dit là. Quand il ouvrit le sceau, second sceau, et j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. C'est parfait. C'est tout à fait cela. Oh, j'aime laisser l'Écriture répondre elle-même, pas vous. C'est le Saint-Esprit qui l'a écrite en entier, mais il peut la révéler. Maintenant, observons le troisième sceau. Or, ici, c'est la famine. Donc, Matthieu 24, 7 et 8. Prenons 7 et 8 dans Matthieu. Et nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Voyez, on continue à approcher là. Maintenant, Apocalypse au chapitre 6. Maintenant, nous allons ouvrir le troisième sceau. Cela se trouve dans Apocalypse 6, 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, je vis le troisième être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure un denier, une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » La famine, voyez, exactement le même sceau, la même chose que ce que Jésus avait dit. Très bien, le quatrième sceau, des pestes et la mort. Remarquez, Matthieu 24, nous allons lire le verset 8, ce sont les versets 7 et 8, je crois, pour le quatrième sceau que j'ai noté ici. Très bien. Bon, qu'est-ce que je viens de lire ici? Est-ce que j'ai mal lu ou oui? Est-ce que j'avais noté? Vous nous dites, voilà, maintenant on y va là. Bon, très bien. Maintenant, commençons ici au verset 7 pour le quatrième sceau et au chapitre 6, 7 et 8 pour l'autre dans Apocalypse. Maintenant, voyons voir les versets 7 et 8 de Matthieu 24. Très bien. Bon. Et nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Maintenant, le quatrième sceau, nous allons le lire ici, c'était... Le quatrième sceau commençait au verset 7 et 8 pour l'autre, là. Quand il ouvrit le quatrième sceau, et voici le quatrième être vivant, dit, « Viens et vois, je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur or. » Attendez un peu, j'ai noté ça de travers. Oui, oui, maintenant un instant, là. 7 et 8. Maintenant, voyons voir. Matthieu 24, 7 et 8. Maintenant, voyons voir. Nous allons le prendre. C'est l'ouverture du troisième, n'est-ce pas? Matthieu 24, 7 et 8. Excusez-moi. Bon, cela déclenche la pluie ou la famine déclenche la famine. Très bien. Maintenant, les pestes et la mort. Oui, oui, monsieur, là, nous allons le prendre. 7 et 8. Maintenant, ce serait là le quatrième sceau. Nous allons voir où se situe le quatrième sceau. Quand il ouvrit le quatrième sceau, oui, c'est le cavalier au cheval de couleur pâle, la mort, vous voyez. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bon, vous voyez ça, c'était la mort. Maintenant, ce cinquième sceau, Matthieu 24, 9, 13. Voyons si j'ai noté celui-là comme il faut, là encore. Voyez? Et alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Voilà. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et quand, alors aussi plusieurs trahiront, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, nous en sommes au cinquième sceau, là. Ça, c'était hier soir, vous voyez. On vous livrera, ils se trahiront, ainsi de suite. Maintenant, regardez bien ici, le sixième sceau. 6, 9 à 11. Maintenant, prenons celui-là, Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, souverain, saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Maintenant, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, devant être mis à mort comme eux. Maintenant, vous voyez, sous le cinquième sceau, nous voyons ici le martyr. Et sous 24-9, de ce côté-ci, nous, jusqu'à 13, nous voyons que c'était aussi le martyr. On vous livrera et on vous fera mourir, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le même sceau qui est ouvert. Maintenant, le sixième sceau, celui que nous abordons maintenant, Matthieu 24, 29 et 30. 24, prenons 29 et 30. Nous y voilà. Bon, et maintenant, nous allons aussi prendre Apocalypse 6, 12 à 17. C'est précisément ce que nous venons de lire. Maintenant, écoutez bien ceci. Là, ce que Jésus a dit dans Matthieu 29, 24, 29 et 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, quoi? Quand cette tribulation amateur par laquelle ils ont passé, là, vous voyez, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, lisez ici dans Apocalypse maintenant le sixième sceau, celui que nous étudions en ce moment. Voici, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac, vous voyez, de crainte, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers de la montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? C'est tout à fait parfait. Et prenez tout de suite l'autre page pour voir ce que j'ai déjà dit ici dans Matthieu 24, 29. Et écoutez, après cette affaire d'Eichmann et tout, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances du ciel seront ébranlées. Maintenant, regardez bien. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et elles le verront, et elles... Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges et ainsi de suite avec la trompette et les rassembleront des 80 et ils se sont combattus. Et vous voyez, c'est exactement pareil quand on compare ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et ce que le révélateur ici a fait connaître dans le sixième sceau, c'est exactement pareil. Alors Jésus parlait de la période de tribulation. Vous voyez, d'abord, il a demandé quand ces choses arriveraient, que le temps disparaîtrait. Il a répondu à ça. C'est ce qu'il a demandé ensuite, c'est quand il viendrait le temps, il y aurait l'âge des martyrs. Et quand ceci se ferait, quand l'Antichrist s'élèverait et quand l'Antichrist ferait disparaître le temple. Daniel, nous pourrions retourner prendre dans Daniel, là, quand il a parlé de ce prince qui allait venir. Vous qui lisez sur le sujet, vous savez ça? Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il supprimerait le sacrifice quotidien et tout ce qui se passerait à ce moment-là. Il a dit, Jésus même, quand il en a parlé, il a souligné, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont en parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint. Qu'est-ce que c'est? La mosquée d'Omar qui s'est trouvée sur l'emplacement du temple après qu'ils ont brûlé celui-ci. Il a dit que ceux qui seront dans les montagnes, que ceux qui seront sur les toits ne descendent pas pour prendre des choses dans la maison ou que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière, car il y aura un temps de détresse. voyez, et toutes ces choses qui arriveraient, nous en avons montré la succession là et nous les avons confirmées en les ramenant à cette ouverture du sixième sceau. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer, Jésus, maintenant, au sujet de demain soir, de ceci, Jésus a omis l'enseignement du septième sceau. Il ne se trouve pas ici. Remarquez, il enchaîne tout de suite avec des paraboles, là, après. Et Jean a omis le septième sceau. Septième, le dernier, le septième sceau. Ça, ce sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit, voyez. Il a omis le septième sceau. Les deux l'ont fait. Et le révélateur, alors que Dieu a seulement dit qu'il y a eu, Jean a dit qu'il y a eu un silence dans le ciel, c'est tout. Jésus lui en a pas parlé du tout. Remarquez, maintenant, nous revenons au verset 12. Remarquez, pas d'être vivant. C'est le verset 12. Nous abordons notre sceau pour le voir une fois ouvert. Ici non plus, il n'y a pas d'êtres vivants semblables. Pas d'êtres qui sont représentés, c'est comme pour le cinquième sceau. Pourquoi? C'est l'arrivée de l'autre côté de l'âge de l'Évangile pendant la période de tribulation. Ce sixième sceau, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie. Voyez, il n'y a aucun être vivant ni rien qui est là pour l'annoncer. C'est seulement maintenant, Dieu ne traite plus avec l'Église, elle est déjà partie. Il traite avec Israël, voyez, ici, c'est de l'autre côté. C'est le moment où Israël reçoit le message du royaume par l'entremise des deux prophètes d'Apocalypse 11. Souvenez-vous, Israël est une nation, le serviteur de Dieu, la nation. Et quand Israël entrera, ce sera une affaire nationale. Israël, l'âge du royaume, c'est là que le fils de David s'assoira sur le trône. Voilà la raison pour laquelle cette femme criait « Fils de David ». Et David doit « Fils de David ». Dieu a juré par lui à David qu'il susciterait son fils, que celui-ci monterait sur son trône. Ce trône serait établi pour toujours, voyez. Il n'aurait pas de fin. Nous avons eu le type en Salomon dans le temple. Et Jésus vient de leur dire ici que cela, il n'en restera pas pierre sur pierre de ceux-là, mais il essaie de leur dire que lui, il reviendra. Quand reviendras-tu? Ces choses-là arriveront avant que je revienne. Et les voici. Là, nous sommes au temps de la tribulation. Souvenez-vous, quand le royaume sera établi sur la terre, alors, ceci va peut-être vous donner un petit choc. Et si vous avez une question, vous pouvez encore me la poser. Si vous voulez la soumettre, votre question, après qu'on a fait l'appel, qu'on la traite, si vous ne savez pas déjà ici. Au temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Les 12 tribus qui forment la nation. Mais l'épouse est dans le palais. Elle est la reine alors, elle est mariée, et toute la terre entrera dans cette ville, Jérusalem, pour y apporter sa gloire. Et les portes ne se fermeront pas la nuit, parce qu'il n'y aura pas de nuit, voyez. Les portes seront toujours ouvertes, et les rois de la terre, Apocalypse 22, apportent leur honneur et leur gloire dans cette ville. Mais l'épouse, elle est dans la ville avec l'agneau. Oh là là, vous pouvez voir ça dans la ville. Non pas, l'épouse ne sera pas au dehors à travailler dans les vignes. Non, monsieur. Elle est l'épouse. Elle est la reine auprès du roi. Ce sont les autres qui travaillent au dehors, la nation, pas l'épouse. Amen. Très bien. Remarquez, ces messagers, donc, ces messagers d'Apocalypse 12, ces deux prophètes, ils vont prêcher « Le royaume est proche ». Voyez, le royaume des cieux doit être établi. Le temps, le dernier 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel, qui a été promis aux Juifs, son peuple. Souvenez-vous, en même temps, et pour le prouver que c'est la dernière partie de la 70e semaine de Daniel, j'ai reçu une question là-dessus, j'y répondrai demain, voyez. Or, 70 semaines avaient été promises, c'est-à-dire 7 ans, et au milieu des 7 semaines, le Messie devait être retranché pour être offert en sacrifice. Il prophétiserait pendant 3 ans et demi, et ensuite il serait retranché pour être un sacrifice pour le peuple. Ils sont encore fixés 3 ans et demi, encore fixés pour Israël. Alors, quand le Messie a été retranché, le Juif a été aveuglé pour l'empêcher de voir que c'était là le Messie. Et puis, après que le Messie a été retranché, les nations ont eu l'âge de l'Évangile et de la grâce. Et au fil du temps, parmi eux, Dieu en a choisi un ici, un là, et un ici, et un là, et il les a fait reposer à l'égard auprès des messagers. Et un ici, et un là, et un ici, et un là, et il les a fait reposer à l'égard auprès des messagers. Il a envoyé le premier messager, celui-ci a prêché, la trompette a sonné. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Et alors, la trompette, cela déclarait une guerre. La trompette indique toujours une guerre. Le messager, l'ange, vient sur la terre. Le messager de l'heure, comme Luther, comme tous les messagers dont nous avons parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, et un sceau est ouvert, et révélé, une trompette sonne, la guerre est déclarée, et les voilà partis. Et puis le messager meurt, il scelle et met à part ce groupe, ils sont mis à l'égard. Et un fléau s'abat sur ceux qui ont rejeté cela, vous voyez? Ensuite, ça continue. Ensuite, ils s'organisent. Ils forment une autre organisation. Nous venons d'étudier ça. Ensuite, les voilà qui arrivent avec une autre puissance. Vous voyez, une autre puissance, un autre âge de l'Église, un autre ministère. Alors, à ce moment-là, voilà Dieu qui arrive avec son ministère à lui. Quand l'Antichrist arrive avec le sien, vous voyez, anti, ça veut dire contre. Il marche de front. Je voudrais vous faire remarquer un petit quelque chose. Presque au même moment où Caïn est arrivé sur terre, Abel est arrivé sur terre. Je voudrais vous faire remarquer presque au même moment où Christ est arrivé sur terre, Judas est arrivé sur terre. À peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit Antichrist est descendu. Presque au même moment où le Saint-Esprit est en train de se révéler ici dans les derniers jours, l'Antichrist est aussi en train de se montrer sous son vrai jour, il se montre dans sa politique et tout. Et presque au même moment où l'Antichrist entre pleinement en scène, Dieu aussi, il entre pleinement en scène pour racheter le tout. Vous voyez, il marche vraiment de front. Ils sont tous les deux côte à côte, Caïn et Abel, le corbeau et la colombe, dans l'arche, Judas et Jésus. Et simplement tout le long, vous pouvez les prendre simplement. Il y a eu Moab et Israël, les deux. Moab n'était pas une nation païenne. Non, messieurs. Ils offraient les mêmes sacrifices qu'Israël. Ils priaient le même Dieu. Exactement. Moab, c'est l'une des filles de Lot qui a couché avec son père et elle a eu un enfant. Et cet enfant a été appelé du nom de Moab. Et c'est de lui qui est venue la race de Moab, le pays de Moab. Et quand ils ont vu venir Israël, leur frère racheté, ils étaient fondamentalistes. Ils étaient une grande dénomination. Israël n'avait aucune dénomination, elle habitait simplement sous des tentes et un peu partout. Mais c'est chez Moab qu'on trouvait les dignitaires, les rois et tout. Ils avaient Balaam là-bas, un faux prophète, et ils avaient tout ça. Alors ils sont descendus là pour maudire leur petit frère qui était en route vers le pays promis, qui se dirigeait vers sa promesse. Et il est allé leur demander, « Puis-je traverser votre pays? Si mes vaches boivent de l'eau, je vous dédommagerai. Si elles broutent de l'herbe, nous vous dédommagerons. » Il a dit, « Non, pas question que vous fassiez des réunions de réveil comme ça ici, c'est vrai. Pas question que vous fassiez quoi que ce soit du genre ici. » Et ensuite, regardez bien ce qu'il a fait. Il est revenu sous la forme de Jézabel. Il s'est retrouvé dans ce faux prophète. Et il a fait tomber les enfants de Dieu dans l'erreur. Il a introduit les femmes moabites en Israël par des mariages et il a causé de l'adultère. Et il a fait la même chose dans ce même âge au cours de notre voyage à nous vers la terre promise. Qu'est-ce qu'il a fait? Le faux prophète est venu, il y a eu un mariage, il a fait son appel à l'Église protestante, et il a fait naître les dénominations exactement comme il l'avait fait à l'époque. Mais la petite Israël a continué à avancer malgré tout ça. Elle a rouspété pendant un bon bout de temps dans le désert et tous ses vieux combattants devaient mourir, mais n'empêche qu'elle est entrée dans le pays promis. Oui, oui. Regardez-les tous en armes, juste avant de traverser le Jourdain. Ah, j'aime ça. Ah, nous arrivons maintenant à cet âge-là, en ce moment ici. Remarquez. Maintenant, nous voyons que le temps, le dernier, j'ai dit 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel. Je vais l'expliquer un peu plus en détail, car parce que je vois que quelqu'un ici qui a toujours suivi cela de près, je vais essayer d'être clair, un docteur. Remarquez. Quand les 70 semaines ont été présentées, Daniel a eu la vision de ce temps qui viendrait et de la fin des Juifs, mais alors il a dit qu'il y avait 70 semaines de fixées, ça c'est 7 ans. Au milieu, eh bien, le Messie serait ici ou il serait retranché pour être un sacrifice. Or, c'est précisément ce qui est arrivé. Ensuite, Dieu a traité avec les nations jusqu'à ce qu'il en ait été choisi un peuple qui porta son nom. Dès que l'Église des nations a été choisie, il a enlevé l'Église. Et à ce moment-là, la Vierge endormie, qui est, en fait, l'Église, l'épouse, elle est montée. Et l'Église, c'est elle qui a été jetée dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Au même moment, la tribulation est déversée sur ces gens-là. Et pendant que la tribulation est en cours, c'est là que paraissent ces deux prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'Évangile. Ils prêchent pendant 1160 jours, vous voyez? Eh bien, c'est exactement avec 30 jours par mois, comme l'indique le vrai calendrier, c'est exactement 3 ans et demi. C'est la 70e partie, la dernière partie de la 70e semaine de Daniel, vous voyez? Dieu n'a pas traité avec Israël entre-temps. Non, monsieur. Il n'y a pas longtemps, un frère m'a demandé, il disait, devrais-je aller, un frère de cette église-ci, un précieux frère, un cher frère, il disait, je veux aller en Israël, je crois qu'il y a un réveil. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, vous devriez aller en Israël tout de suite, il le verrait, voyez-vous. Vous ne pouvez pas. J'étais là, je me disais, les Juifs, là, ils se sont dit, si, eh bien, si ceci, si Jésus est le Messie, ils ont dit que je le vois accomplir le signe d'un prophète. Nous croirons nos prophètes parce que c'est ce qu'ils sont censés être. Quel terrain favorable! Je me suis dit, mais voici, quand je suis arrivé là-bas, tout près, j'ai juste, eh bien, j'étais au carré et j'avais mon billet à la main pour Israël. Et j'ai dit, je vais aller voir si c'est ce qu'ils demandent, s'ils peuvent voir le signe d'un prophète. Nous verrons bien s'ils vont accepter Christ. Lewis Petrus de l'église de Stockholm leur avait envoyé 1 million de Bibles. Et les Juifs qui entrent là-bas, vous avez vu le film, j'ai la bobine dans ce moment ici en arrière, 3:00. Les Juifs qui rentrent des quatre coins du monde, de partout, ils ont commencé à se rassembler là-bas. Après que l'Angleterre y est allée du temps de général Allenby, c'est dans le déclin de la guerre mondiale, volume 2, je pense, ils se sont rendus, les Turcs se sont rendus. Ensuite, il a redonné la possession à Israël et depuis, la nation ne cesse de s'accroître. Et maintenant, elle est une nation à part entière. Son propre argent, sa propre monnaie, son propre drapeau, sa propre armée et tout le reste, vous voyez. Et les Juifs qui rentraient dans la patrie, ils étaient, d'abord, quand ils sont allés les chercher en Iran, et là-bas, ils ont demandé, ils ont dit qu'ils voulaient les ramener en Israël, leur donner leur coin, les ramener dans leur pays, la Palestine, là où ils sont censés être. Et rappelez-vous, tant qu'Israël est en dehors de ce pays-là, elle est en dehors de la volonté de Dieu, comme Abraham à qui il lui avait été donné. Et quand il refusait de monter dans l'avion, il n'avait jamais rien vu de pareil. Un vieux rabbin s'est avancé là-bas et il a dit, « Notre prophète nous a dit que quand Israël rentrerait à la maison, ce serait sur les ailes d'un aigle, en avion. » Le moyen de rentrer à la maison. Maintenant, elle est là-bas. Elle se développe. Le figuier qui recommence à pousser. Amen. La vieille étoile de David à 6 branches qui flotte au vent. Les jours des nations sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. La période de la tribulation qui est toute proche. Et ici même, voilà les sceaux qui sont en train d'être ouverts. L'Église va bientôt s'envoler dans les airs. Et la tribulation va bientôt commencer. C'est alors que Dieu descend et qu'il en choisit 144 000 parmi eux. Amen. Voilà, oh, c'est parfait. Vous voyez comme les sceaux font ressortir la chose. Maintenant, le dévoile. Or, c'est ici le dernier 3 ans et demi pour ce peuple. Et aussi, vous remarquez, c'est le temps où Dieu appellera les 144 000 Juifs au cours de ce dernier 3 ans et demi. Vous voyez, il n'a pas traité avec eux du tout. Ils n'ont pas eu de prophète. Ils ne croiront rien d'autre qu'un prophète. On ne réussira pas à les jouer. Donc, ils écouteront un prophète, oui, monsieur, et rien d'autre. Ça, Dieu le leur a dit au commencement, ils s'y tiennent. Il a dit, « L'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. » Moïse a dit cela, et il a dit, « Vous l'écouterez, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » C'est vrai. Et voyez, il fallait que leurs yeux soient aveuglés, sinon ils l'auraient reconnu. Au lieu de cela, comme ils étaient aveuglés, cela a permis à Satan d'agir sur eux et qu'ils disent, c'est un diseur de bonne aventure, Belzébul, que son sang retombe sur lui. Nous savons qu'il n'y a rien de valable en lui, voyez. Et ces pauvres gens avaient été aveuglés. Voilà la raison pour laquelle ce groupe d'Eichmann et tout le groupe de ceux qui ont été tués à l'époque, ils ont eu le droit d'entrer. Leur propre père avait dû aveugler leurs yeux pour qu'ils puissent nous prendre, nous. C'est à peu près la même chose, la chose la plus pathétique des Écritures. Pensez un peu, les Juifs qui réclamaient le sang de leur propre père, leur propre Dieu qui était suspendu là, en train de verser son sang. Regardez, là, ils le crucifièrent, dit la Bible. Voilà quatre mots qui sont parmi les plus importants. Regardez, là, Jérusalem, la ville la plus sainte du monde. Il, le peuple le plus saint du monde. Crucifier, la mort la plus brutale du monde. Lui, la personne la plus importante du monde. Voyez? Pourquoi les gens religieux de la plus grande religion du monde, la seule vraie religion du monde, ils étaient là en train de crucifier le Dieu même dont leur Bible avait annoncé la venue? Pourquoi n'ont-ils pas vu? La Bible nous dit que Dieu les a aveuglés. Alors, ils ne pouvaient pas voir. Il a dit, « Qui de vous peut m'accuser de péché? » Autrement dit, si je n'ai pas fait exactement ce qu'il a été prédit que je ferais, alors dites-le, moi, le péché, c'est l'incrédulité. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit, mais il ne pouvait pas le voir. Maintenant, quand on parle aux gens, ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pitoyable de voir ces nations et les gens, la façon dont ils se comportent, tellement formalistes et religieux. Mais le Saint-Esprit ne nous dit-il pas qu'ils sont emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien? Ils auraient l'apparence de la piété, mais ils renieraient la puissance de l'Évangile. Il a dit, ces gens-là, éloigne-toi d'eux. Il nous dit, voilà. Ce sont ces dénominations qui déforment tout cela, toute la gloire et la puissance. Ils situent cela du temps des apôtres et le reste. C'est pour le millénium. Voilà bien l'homme, comme je l'ai déjà dit. L'homme rend toujours gloire à Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit à l'avance de ce qu'il va faire. Il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Exactement. L'homme reste toujours le même. Ces Juifs, ils étaient là, qui disaient « Gloire à Dieu », mais au chapitre 6 dans Jean, ils disaient « Nos pères ont mangé la manne dans le désert ». Et Jésus a dit « Ils sont tous morts ». Ils ont bu l'eau du rocher dans le désert et tout. Il a dit « Je suis ce rocher ». C'est vrai. Amen. Il a dit « Mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu, cet arbre de vie de l'Éden là-bas. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra pas. Je le ressusciterai au dernier jour ». Et malgré tout ça, ils ne pouvaient pas voir. C'était vrai. Le Messie lui-même était là, il exprimait très précisément les mots qu'ils avaient dans leur cœur et ainsi de suite, ce qui montrait qu'il était le Messie, c'était exactement ce que le Messie devait faire. Et eux, ils étaient là, les mains derrière le dos, et impossible. Non, non, il n'est pas venu comme il aurait fallu. Vous voyez, il sort de Bethléem, il n'a rien d'autre qu'un enfant illégitime, et c'est le diable qui le fait agir. Nous savons qu'il est démon, il est fou, il a un démon, vous voyez. Leurs yeux étaient vraiment aveuglés devant cela, bon, mais ils attendent leur prophète. Et ils le recevront. Ils en recevront deux. C'est vrai. Maintenant, remarquez autre chose. De plus, là, quand c'est juif, je vais vous donner un autre petit symbole pour vous faire bien comprendre de ce côté-ci. Là, il s'agit de juifs, de ce côté-ci, de l'enlèvement. Regardez bien ce qui va arriver. Il y en a encore un symbole. On ne prendra pas de temps de le voir parce qu'on va manquer, on va manquer de temps. Il y a encore un symbole dans ce qu'on appelle le temps de la détresse pour Jacob. Maintenant, regardez bien, ces Juifs ici, remarquez, je vais attendre un petit peu pour ceci, vous voyez. Ça me met sous tension quand je me mets à sauter d'une chose à l'autre comme ça, vous voyez. Remarquez, je veux que vous le voyez et Dieu va vous le montrer, j'en suis sûr. Regardez, Jacob avait le droit d'aînesse, pas vrai? Mais il était certainement un petit filou avec ça, vous voyez. Il est allé là-bas et il a trompé son papa, il a trompé son frère, il a tout fait. Mais malgré tout ça, légalement, tout le long, il l'avait, parce qu'Ésaü s'en était défait. Ensuite, il est allé travailler pour le compte de son beau-père là-bas et il a mis les branches de peuplier dans l'eau pour que les bêtes qui portaient des petits et tout, qu'elles donnent naissance à des veaux tachetés et oh, vous savez tout ce qu'il a fait comme ça, juste pour s'enrichir. Maintenant, regardez bien. Or, il avait été expulsé de chez les siens. Or, c'est un type du juif de maintenant. Il tire argent de tout. Peu importe quel moyen il prend pour l'avoir, il va l'avoir. Il va vous écorcher tout vif pour l'avoir. Ça, vous le savez, c'est un petit filou, voilà tout. Oh là là, ne fais pas affaire avec lui, il va te rouler, mon gars. Oui, monsieur. Pourquoi? Il faut qu'il soit comme ça. C'est ce genre d'esprit-là qui domine. Exactement comme les réformateurs, ils ne pouvaient pas comprendre cette parole parce que c'est l'esprit de l'homme qui leur avait été envoyé. C'est l'âge de l'aigle qui reçoit la parole et la révélation. Tous ceux qui comprennent ça, levez la main pour que... Très bien. C'est bien. Voyez? Très bien. Voyez? Si vous pouvez voir ici, sous ces sceaux, s'ils peuvent être, une fois qu'ils sont ouverts, vous pouvez voir exactement ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire. Le voici exactement. Voilà pourquoi les hommes ont agi comme ils l'ont fait. C'est parce que c'était là l'esprit qui avait été prédit pour cet âge-là, qui devait être sur eux. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Je pense à Jean, à Paul et aux autres, là, cet esprit du lion, le L-I-O-N, qui était là, la parole elle-même. Paul s'est tenu là avec cette parole et il a dit, « Je sais ceci, qu'il s'élèvera des faux frères au milieu de vous, qu'ils circuleront, qu'ils vont former des dénominations et tout le reste au milieu de vous et tout ce qu'ils vont faire. Et cela va continuer jusqu'au dernier jour. Il y aura un temps terrible. » Pourquoi? Il était prophète, cette parole était là en lui, et que tout cela aboutirait très loin là-bas. Il dirait, il s'élèverait au milieu de vous des hommes fous, ils diront des choses, ils s'entendront après eux des frères qui sont des disciples. Voilà précisément l'Antichrist, et c'est précisément ce qu'il fait. Et ensuite, ils ont traversé la tribulation de l'âge des ténèbres. Qu'est-ce que c'était? Ils ne pouvaient rien faire. Rome possédait, il détenait le pouvoir religieux, il détenait le pouvoir politique, il ne pouvait rien faire à part peiner pour rester en vie et sacrifier. C'était le bœuf, c'est tout ce qu'il pouvait faire. C'est ce genre d'esprit-là qu'ils avaient, l'esprit de Dieu, le bœuf. Ensuite, voilà que les réformateurs sont arrivés, la tête d'homme, astucieux, sage, Martin Luther, John Wesley, ainsi de suite, Calvin, Finney, Knox et les autres. Les voilà qui sont venus. Et à ce moment-là, eux étaient des réformateurs. Ils sont venus réformer, faire sortir les gens. Ils ont eu encore fait demi-tour, exactement comme ils l'avaient fait à l'époque. Ils se sont de nouveau joints à elle par le mariage. Par leur système dénominationnel, exactement. La Bible l'a dit. Elle était une prostituée, et puis elle a eu des filles, des prostituées, exactement. Et Dieu a dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, elle ne s'est pas repentie. Alors je vais la prendre, elle et ses enfants, et je vais les jeter là-bas, dans le lieu qui leur convient, exactement. Or ça, c'est Dieu qui l'a dit, sous ceci, voyez, sous ce sceau. Donc elle s'est retrouvée là. Nous voyons que c'est ce qu'il fait, et il le fera. Et elles vont toutes prendre cette direction-là. Mais pour tous ceux qui sont le nom et dans le livre de vie, Dieu fera l'appel. Ils l'entendront. Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lancer un appel aux brebis. Les boucs ne la connaissent pas, remarquez. Mais vous voyez, c'est l'appel des brebis. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? La voix, c'est quoi? Je veux vous dire ce qu'est une voix. Une voix, c'est un signe spirituel. Il a dit à Moïse, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du second signe. Mes brebis entendent ma voix alors que ces choses sont censées se produire dans les derniers jours. Les brebis de Dieu reconnaissent cela. Oui, monsieur, voyez, elles reconnaissent cela. Mes brebis me connaissent, voyez. Elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivent pas les étrangers. Il faut que ce soit un signe du jour, confirmé, et elles le voient. Bon, maintenant, remarquez. Alors, Jacob, à un moment donné, voilà qu'il s'est mis à désirer ardemment retourner où? Dans sa patrie. Oh, c'est précisément ce qu'Israël a fait. C'est Israël. Jacob, c'est Israël. C'est simplement que son nom a été changé, vous savez. Il est allé là-bas, il s'est procuré tout son argent et tout l'argent qu'il a pu. Il a soutiré par tous les moyens possibles à sa parenté aussi bien qu'à n'importe qui d'autre. Donc, par l'escroquerie, le vol, le mensonge, il s'en est procuré par tous les moyens qu'il a pu, vous voyez, assurément. Et puis, quand il s'est mis en route pour rentrer, il a commencé à éprouver au fond de son cœur un sentiment de nostalgie. Seulement, comme il se mettait en route sur le chemin du retour, il a rencontré Dieu. Et alors, son nom a été changé, vous voyez. Mais c'était un temps où il était très inquiet parce qu'il craignait qu'Ésaü de le poursuivre. Voyez, et remarquez l'argent, la proposition d'argent, exactement comme les Juifs vont essayer de faire cette alliance avec Rome pour, voyez, par leur proposition d'argent. Remarquez-le, cet Ésaü n'avait pas besoin de son argent. Rome non plus. Elle a la richesse du monde dans sa main, voyez. Mais ça n'a pas marché. Seulement, nous voyons là qu'Israël, dans ce temps de détresse, alors qu'ils étaient Jacob, il a lutté avec le... Il s'est emparé de quelque chose de réel. Un homme est venu, Jacob, l'a entouré de ses bras, et il n'a pas bougé de là. Et l'homme a dit, « Je dois partir maintenant. » L'aurore se lève. Oh, cette aurore, voyez. Le jour allait se lever. Mais Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Tu ne peux pas partir. Je vais rester accroché à toi, voyez. Je veux que ça change ici. Ce sont les 144 000, cette bande de tripoteurs d'argent et tout, au moment où ils verront la chose véritable, la chose authentique, ce dont il faut s'emparer. Moïse sera là et Élie sera là. Amen. C'est alors qu'ils lutteront avec Dieu jusqu'à 144 000. Des tribus d'Israël ont été appelées à sortir là-bas. C'est juste avant la période de la tribulation, vous voyez? Oh, comme c'est merveilleux! Aussi la détresse de Jacob. C'est là que les 144 000 sont appelés à sortir. Et les prédicateurs, ces deux prophètes, ils prêchent comme Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est proche. Repends-toi, Israël! Repends-toi de quoi? Repends-toi de tes péchés, de ton incrédulité et retourne à Dieu. Maintenant, remémorons-nous quelque chose ici. Ces grands bouleversements de la nature, ils se sont déjà produits auparavant. Ceux du verset 12 ici, vous le voyez, le soleil devint noir comme un sac de crin. Maintenant, comparez ceci. Or, souvenez-vous, cela n'arrive pas du temps des nations. C'est Israël. Je vais vous montrer. Maintenant, souvenez-vous, j'ai dit que c'est là l'appel des 144 000, vous voyez? C'est dans cette période de temps maintenant, celle de la tribulation, que cela doit se faire. Et ici, il nous est dit qu'il se passe pendant la tribulation. Maintenant, prenons Exode 10, 21, 23. Et regardez bien ici quand... L'Exode, bien entendu, c'est le moment où Israël est sorti, allait sortir. Exode, chapitre 10, et les versets 21, 23. Je suis tellement surexcité, je jubile tellement quand je prends mes notes qu'il peut m'arriver de ne pas prendre les comme il faut. Très bien, Exode 10, 21, 23. Très bien, allons-y, 21, 23. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Voyez? Or, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Remarquez, c'est exactement ça. Maintenant, prenez de ce côté-ci. Le soleil devint noir comme un sac. Vous voyez, la même chose. C'est bouleversement de la nature. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Quand il y a eu un bouleversement de la nature comme ceci, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Vous voyez? Dieu appelle Israël à sortir. Donc, le soleil noir comme du crin. Or là, Dieu était sur le point de délivrer Israël. Très bien. De les délivrer de la main de leur ennemi qui était l'Égypte à cette époque-là. Maintenant ici, il les délivre de la main de Rome, avec qui il avait fait alliance. La même chose arrive. Ce sont les plaies, le moment où ces plaies vont appeler. Elles vont torturer le groupe des nations. Si nous avions le temps, je pourrais montrer ce qui va arriver à l'Église des Nations. La Bible a dit que le dragon, Satan, fut irrité, ça veut dire fâché, contre la femme, les Juifs, Israël, et qu'il lança de l'eau beaucoup, des foules de gens, et qu'il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Apocalypse 13. Donc, vous voyez là, c'est ce que nous avons. C'est le moment où Israël envoie son... Je veux dire, où Rome envoie son armée contre les restes de la postérité de la femme. Maintenant, regardez bien. La première fois qui les a délivrés des mains de leur ennemi. Le soleil est devenu un sac, noir comme un sac. Maintenant, ceci, c'est la deuxième fois à la fin de la période de la tribulation. Maintenant, dans Daniel 12, si nous avions le temps, nous pourrions le lire. Dans Daniel, au douzième verset, au douzième chapitre plutôt, Daniel a dit que tous ceux qui seraient trouvés écrits dans le livre seraient délivrés. Alors, souvenez-vous, Daniel parle maintenant de cette période-ci où cette chose doit arriver quand Israël doit être délivré à la fin de leur 70e semaine. C'est là qu'ils doivent être délivrés. Maintenant, regardez. Prenons Daniel 12 ici un instant. Et en ce temps-là, Michael se lèvera, le grand chef qui a tenu pour les fils de ton peuple. Vous voyez ça, ce sont les Juifs. Et ce sera une détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Maintenant, comparez cela, c'est précisément ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en aura jamais eu depuis qu'il existe une nation. Observez le sixième sceau, voyez-vous, la même chose, un temps de détresse. Remarquez, depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple... Là, pendant cette 70e semaine, cette dernière partie de la 7e année, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Les prédestinés, voyez, qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, seront délivrés en ce temps-là. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, et les autres pour être un objet d'opprobre et d'horreur éternelle. Bon, alors, les sages brilleront comme la splendeur des étendues, et ceux qui ont enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ensuite, là, il a dit, Daniel, de sceller le livre, car il la laisse reposer au milieu de son héritage jusqu'à ce temps-là. Donc, voyez-vous, vous viviez, vous allez ressusciter de toute façon. Cela, mourir, ce n'est rien pour un chrétien. Il ne meurt pas de toute façon, voyez. Donc, Daniel 12, il est dit que tous ceux qui seraient trouvés écrits dans le livre seraient délivrés. Ici, Dieu est sur le point de délivrer son deuxième fils, Israël. Après la tribulation, voyez, la deuxième fois, Israël, son Israël est son fils. Vous savez cela? Israël est le fils de Dieu. Alors, il va le délivrer ici pendant la période de la tribulation, exactement comme il l'avait fait là-bas en Égypte. Maintenant, arrêtons-nous encore ici. On va voir autre chose avant d'éclaircir parfaitement. Maintenant, observez bien ici ces deux prophètes. Regardez ce qu'ils vont faire maintenant, exactement ce que Moïse et les autres avaient fait là-bas. En me donnant un roseau au verset 3 et du chapitre 11. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Ce sont les deux oliviers, vous vous en souvenez, et Zorobabel et tout qui devait construire le temple, et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Souvenez-vous, de la bouche de Christ sortait l'épée, la parole. Dévore leur ennemi, et si quelqu'un leur fait du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Or, nous savons que le feu, au chapitre 19, celui de la venue de Christ, de sa bouche sortait son épée, qui était la parole. Pas vrai? La parole. Or, si vous vouliez saisir ces données maintenant pour ce saut de demain soir, voyez, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. Maintenant, regardez bien ici, quand ces prophètes prophétisent, alors si quelqu'un les maltraite, leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Le feu du Saint-Esprit, la parole c'est Dieu, la parole c'est du feu, la parole c'est l'Esprit, voyez, sort de leur bouche. Observez Moïse, voyons ce qui sortait de sa bouche. Eux, Israël, ils se sont mis à ce qu'ils faisaient là, je veux dire, l'Égypte, ils maltraitaient les Juifs. Moïse, eh bien, il refusait de les laisser partir. Pharaon refusait. Dieu a mis les paroles dans la bouche de Moïse, voyez. Ce sont les pensées de Dieu qui sont entrées dans le cœur de Moïse. Moïse, il va là-bas pour les exprimer. Alors, elles deviennent la parole et il a entendu sa main. Il a dit qu'il y ait des mouches et les mouches sont venues. Observez ici, si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Voyez, voilà. Ils peuvent prononcer ce qu'ils veulent et voilà, cela arrive. Amen. Et si quelqu'un leur fait du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Frère, Dieu passe vraiment à l'action ici. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Élie, il sait faire cela, il l'a déjà fait. Amen. Moïse sait faire cela, il l'a déjà fait. C'est dans ce but-là qu'ils ont été gardés. Maintenant, amen. Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici, mais il vaudrait mieux que je le retienne jusqu'à demain soir, voyez? Très bien. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Qu'est-ce? Qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce sixième sceau. Ils le dévoilent, ils l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Voyez, le sixième sceau, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant? Voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. Par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang. Le soleil peut se coucher ou quoi encore à leur commandement. Amen. Voilà, voilà. Voyez? Vous voyez les sceaux qui se sont ouverts là-bas au long des âges de l'Église qui ont montré les martyrs? Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme ils le veulent. Ils ébranlent la terre et c'est par là qu'on peut voir précisément qui le fait. Ce sont Moïse et Élie puisque voilà leur ministère représenté de nouveau. Ce sont ceux des deux hommes. Oh là là! Le voyez-vous maintenant? Vous pouvez voir ce qu'est le sixième sceau? Ce sont ces prophètes. Maintenant, remarquez que ça ne vous échappe pas, là. Mais observez qui a ouvert ce sceau. Des prophètes. Voyez? Amen. Voilà. Oh, nous vivons au jour de l'aigle, frère. Dans les hauteurs, la tête au niveau des nuages. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Ils ont le pouvoir de le faire. Amen. Voilà votre sixième sceau qui s'ouvre, voyez? Maintenant, nous revenons en arrière ici, alors que Jésus avait annoncé que cela arriverait. Très loin dans l'Ancien Testament, là-bas, dans Ézéchiel, et les prophètes d'autrefois, ils avaient annoncé que cela arriverait. Et ici, le sixième sceau est ouvert, et ils disent, « Eh bien, c'est mystérieux, ça. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Et voici le secret, les prophètes! » En effet, la Bible l'a dit ici, ils peuvent l'ouvrir quand ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Et ils font la même chose que ce qu'ils ont déjà fait. Amen. Parce qu'ils savent comment faire. Amen. Gloire. Quand j'ai vu cela, je me suis tout simplement levé de ma chaise. Je me suis mis à faire les 100 pas dans la pièce. Je songeais, Seigneur, comme je te remercie, Père Céleste. Le voilà, c'est ça. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Amen. Observez-les. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche, la parole. Le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres, vous voyez, du feu sort de leur bouche. Maintenant, remarquez dans Apocalypse 19, nous voyons la même chose. Et une grande épée sortait de sa bouche, la parole. Vous voyez, la venue de Christ. Et il tuait ses ennemis par elle. Pas vrai? Maintenant, il est en route. Observez-le maintenant. Très bien. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Oh là là, voilà ce qu'ils appellent suspendre le cours de la nature. Or, pendant combien de temps est-ce que cet homme, Élie, a fermé les cieux? Voilà exactement. Combien de temps dure la 70e, la dernière partie des 70 semaines de Daniel? Voilà exactement. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a changé les eaux en sang. Il a fait tous les miracles de ce genre, très exactement comme ce qui a été prédit ici, sous le sixième sceau. Et les voilà dans Apocalypse 11 en train de faire exactement la même chose. Amen. Il y a là trois différents dans les Écritures là, qui font concorder toute la chose. C'est l'ouverture du sixième sceau. La voilà. Amen. Gloire. Maintenant, remarquez, ils ont le pouvoir de fermer les cieux pendant les jours de leur prophétie afin qu'ils ne tombent point de pluie et le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Oh là là! Voilà. Maintenant, prenez de ce côté-ci les plaies. Vous voyez, la nature tout entière suspend son cours lors de ce sixième filéo ou de ce sixième saut ouvert. C'est exactement ce qui s'est produit. Maintenant, regardez. Ici, Dieu est sur le point de délivrer son fils Israël de la tribulation de la même manière qu'il l'avait délivré là-bas. Il a envoyé Moïse là-bas et il a délivré Israël. Pas vrai? Ils avaient fait exactement les mêmes choses. Il a envoyé Élie vers Akab et 7000 sont sortis, pas vrai? Et voici qu'il les envoie de nouveau ici au moment de la tribulation et ils appellent les 144 000 à sortir. Maintenant, voyez-vous, si vous remarquez entre entre le chapitre 6 ou le sixième fléau, entre le sixième saut et le septième saut, le chapitre 7 de l'Apocalypse, mathématiquement, il a été placé correctement par rapport à l'ensemble. C'est comme l'Amérique, son nombre c'est 13. Elle a commencé par 13 États, 13 étoiles sur le drapeau, 13 colonies, 13 rayures, par 13, tout est par 13. Elle est apparue ici au chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est vrai, elle est 13 et c'est une femme. Maintenant, quand il a été sur le point de délivrer son fils unique, c'est-à-dire le seul qui est venu de lui, Jacob est son fils, mais lui, c'est son seul fils venu de lui, dans Matthieu 27. Voyons ce qu'il a fait là. Matthieu, chapitre 27. Maintenant, souvenez-vous, son fils avait été battu, on l'avait fait souffrir, et on s'était moqué de lui. Il était maintenant suspendu à la croix à 3 heures dans l'après-midi du vendredi saint. Il est presque sur le point de se produire. Matthieu, le chapitre 27 de Matthieu, et au verset 45, je crois. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Maintenant, remarquez précisément ce qu'il a fait ici, maintenant, dans ce cas-ci, vous voyez? Regardez, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. L'obscurité, les ténèbres, en Égypte, l'obscurité, les ténèbres, Dieu qui délivrait Jésus à la croix juste avant qu'il le ressuscite. D'abord les ténèbres, le soleil s'est couché au milieu du jour et les étoiles ont refusé de briller. 2 jours plus tard, il allait le ressusciter en grand triomphe en Égypte. En Égypte, après que le soleil, la lune, les étoiles et tout, après que tout cela s'est produit, il a délivré Israël pour l'amener au pays promis. Et voici, dans la période de la tribulation, voici ses prophètes. Ils sont là, maîtres de la parole que Dieu leur donne. Ils peuvent seulement prononcer la parole à mesure que Dieu la leur donne. Or, ils ne sont pas des dieux. Ils sont temporairement, de façon amateur. Ils le sont, parce que Jésus a dit qu'ils étaient. Il a dit, vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue. Mais regardez, ils sont ceux à qui Dieu apporte la parole. Et quand il la prononce, cela arrive. Voilà tout. Et le voici avec une commission reçue de Dieu de frapper la terre de tout ce qu'il voudra. Oh là là! De fermer les cieux. Et il le fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se prépare à faire sortir les 144 000 pour les racheter, ceux du livre de la rédemption. Et c'est sous le sceau de la rédemption, dans le sixième sceau. Et voilà, mon cher ami, voilà ce sixième sceau qui avait été si mystérieux. Prenez donc, il nous reste encore 10 minutes. Prenez donc quelques points, vous voyez, j'en ai à peu près 2 ou 3 pages. Eh bien, vous voyez, il peut y avoir un peu, je pense qu'il doit y avoir. Pour cela, je pense qu'il me reste encore 15 de pages, je pourrais prendre. Oh, c'est une manière tellement abondante. On pourrait prendre un passage après l'autre sans s'arrêter, mais j'ai peur de vous embrouiller si je m'éparpille trop. Et je ne peux pas garder la continuité comme je le devrais. Dans Ésaïe, prenons ceci. Ésaïe, le prophète, a vu ce sixième sceau ouvert. Et il en a parlé pour montrer si c'est important ou pas, vous voyez? Eh bien, tout le plan de la rédemption tout entier repose sous ces sceaux, le livre tout entier. Mais souvenez-vous, nous avons vu que Jésus l'avait vu, pas vrai? Vous voyez? Jésus l'avait vu. Et maintenant, nous avons vu que d'autres l'avaient vu. Nous en avons vu le type en Jacob. Nous avons vu le type en Égypte. Nous le voyons en type à la croix. Maintenant, revenons en arrière à Ésaïe, et j'ai noté encore beaucoup d'autres prophètes ici. On va simplement, j'aime ceci dans Ésaïe. Revenons ici au chapitre 13 d'Ésaïe. J'aime à lui seul le livre d'Ésaïe, c'est la Bible au complet, vous savez. Le saviez-vous? Vous voyez, Ésaïe commence par la création au milieu du livre, il présente Jean, et à la fin, il présente le millénium. Il y a 66 livres dans la Bible et 66 chapitres dans Ésaïe. À lui seul, ce livre est une encyclopédie au complet. Remarquez, maintenant le chapitre 13 d'Ésaïe, commençons ici au verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Regardez bien, s'ouvrir le sixième sceau ici maintenant. Très loin en arrière, ici, 713 ans avant la venue de Christ, il y a 2000 ans qu'il est venu, alors il y aurait environ 2700 ans de cela. Isaïe a vu ce sceau qui menaçait là-bas. Très bien. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira alors, et les hommes rendront l'âme de terreur, la mer mugira. Vous voyez, le cœur des hommes va défaillir. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes des douleurs les saisissent, ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont honteux. Remarquez bien ici, oh, leur visage honteux. Ça, nous devons y venir dans un petit instant, je vais le retenir, vous voyez. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. La terre, c'est-à-dire tout, vous voyez, remarquez. Car les étoiles des cieux, et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurira dès son lever, et la lune ne fera plus luire ses clartés. Je punirai le monde pour sa malice et l'iniquité et la méchanceté de leur iniquité. Je ferai cesser leur... Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne peux pas le prononcer, voyez-vous. Des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Voyez là, très précisément, Ésaïe a vu la même chose que ce dont Jésus a parlé et que révèle le septième sceau. Au moment où il purifie la terre par la tribulation, il s'agit de la période de la tribulation, de ce sixième sceau, oui, il était prophète. Et la parole de Dieu lui a été divulguée. Ça, c'était il y a 2700 ans. En vérité, je voudrais seulement dire ceci. Le monde entier, comme l'a dit Ésaïe, ici comme une femme en travail, toute la création est en travail. Pourquoi tous ces gémissements, tout ce travail, comme une femme qui va accoucher? La terre elle-même, la nature. Mais cette ville-ci, prenons notre propre ville, alors qu'on y trouve des tavernes, de la prostitution, de la souillure, de la charogne, comme dans toutes les autres villes. Mais je crois que Dieu se plairait davantage à la regarder comme il l'avait disposée il y a 1000 ans. À l'époque, l'Ohio passait ici, on n'avait pas besoin de canaliser, il n'y avait pas d'inondation, il n'y avait pas de péché dans la vallée. Le bison se promenait ici et là, et le vieux Cherokee le chassait. Il gagnait honnêtement sa vie, il n'y avait aucun problème du tout. Mais l'homme est arrivé. C'est là que le péché arrive. Quand les hommes commencent à se multiplier sur la surface de la terre, c'est là que le péché et la violence se manifestent. C'est vrai. C'est toujours l'homme. Eh bien, je trouve que c'est une honte. L'autre jour, j'étais dans ma région où j'habite maintenant, là-bas en Arizona. Quand j'étais gamin, je lisais au sujet de Girumino et de Cochise et des vieux Apaches. En effet, je leur ai prêché là-bas des gens vraiment bien. Et quelques-uns des gens les plus gentils que vous puissiez rencontrer, ce sont ces Indiens Apaches. Et puis, je suis allé là-bas à Tombstone, où ils conservent les objets historiques et les reliques de la guerre. Je regardais, ils ont toujours, vous savez, ils ont toujours mis Girumino au rang des renégats. Moi, je trouve qu'il était un Américain, un vrai de vrai, absolument. Il ne faisait que se battre pour défendre ses droits, comme n'importe qui le ferait. Il ne voulait pas de cette pollution dans son pays. Regardez où en sont même maintenant ses enfants et ses filles. Ils en font des prostituées et tout le reste. Et les hommes blancs sont arrivés là-bas. L'homme blanc, c'est un scélérat. L'Indien était partisan de la conservation. Il était un défenseur de l'environnement. Quand il tuait un bison, la tribu entière mangeait tout ce qu'il en restait. Servait de la peau pour en faire des vêtements et des tentes et tout le reste. Et l'homme blanc, lui, il va tirer dessus en se servant comme d'une cible. Mais c'est vraiment une honte. Et j'ai lu un article dans le journal où on disait qu'en Afrique, cette vaste étendue où fourmille le gibier sauvage, il y a des individus, Arthur Godfrey et d'autres, qui vont là-bas. Et alors, ils sont dans des hélicoptères ou autres. Ils tirent au sol les éléphants et tout. Avec la photo d'une brave éléphante qui cherchait la mort, on aurait dit que les larmes lui coulaient sur la face et deux grands mâles essayaient de la tenir debout. Mais c'est un péché. Ce n'est pas être sportif. Ça. Quand je suis là-bas sur le champ de mission et là où je chasse et tout, et que je vois comment ces hommes blancs vont là-bas, qu'ils tirent sur les cerfs, qu'ils n'en découpent que l'arrière-train, et parfois ils vont tuer 8 ou 10 petites biches et les laisser là, et les petits fonds qui courent partout et qui cherchent à retrouver leur maman, et c'est là que vous appelez à avoir l'esprit sportif. À mon avis, c'est un meurtre pur et simple. J'espère qu'aussi longtemps que je vivrai, le Canada n'aura jamais de route vers l'intérieur du pays pour empêcher ces renégats d'Américains d'y entrer. C'est vrai, ce sont les pires sportifs que j'ai jamais vus de ma vie. Bon, pas tous, il y en a qui sont des vrais, des hommes authentiques, mais on en trouve 1 sur 1000. Ils tirent sur tout ce qu'ils voient et n'importe comment. C'est vrai, ça c'est un meurtrier. C'est vrai, c'est un sans-cœur, ils chassent en période prohibée. Eh bien, là-bas, en Alaska, j'étais là avec un des guides de là-bas. Il a dit, j'ai ramassé, j'irai maintenant. J'y trouverai des troupes complètes de grands élans, pas d'élans, mais d'orignaux, par terre avec des balles de mitrailleuse de calibre 50 dans leur bois à cause de ces pilotes américains là-bas en Alaska qui, de leur avion, vont mitrailler au sol une troupe d'orignaux. Ça, c'est un meurtre pur et simple. Ils savaient qu'en tuant le bison, c'est comme ça qu'ils réussiraient à avoir l'Indien. Ils mouraient de faim, c'est pour ça que Cochise a été forcé de se rendre. C'est tous ses princes, tous les autres, ses enfants, tout son peuple, ils étaient en train de mourir de faim. Ils allaient là-bas en nombre, grand nombre, Buffalo Bill et les hommes de la plaine dans les wagons, qu'ils tuaient tous les bisons 40-50 par après-midi. Ils savaient qu'en se débarrassant, ils se débarrasseraient de l'Indien. Oh là là! C'est une tache sur notre drapeau, la façon dont ils ont traité les Indiens. Voilà. Mais souvenez-vous, la Bible a dit, « L'heure est venue où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre et le monde entier. » Regardez les vallées. L'autre jour, j'étais là et d'en haut, je regardais la vallée de Phoenix. Nous étions montés sur la montagne du sud, mon épouse et moi, et nous étions assis là-haut à regarder Phoenix. Et j'ai dit, « N'est-ce pas terrible? » Elle a dit, « Terrible? Qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai dit, « Le péché. Combien on peut commettre d'adultère et boire et blasphémer et prendre le nom du Seigneur en vain dans cette vallée-là avec environ 140, 150 000 personnes, peut-être 200 000 personnes dans cette vallée? » J'ai dit, « Il y a 500 ans ou 1000 ans, il n'y avait rien d'autre que des cactus, des précipices et des vieux coyotes qui se promenaient le long des lits sablonneux des rivières, là, des lits, des ruisseaux. » Et j'ai dit, « Voilà la façon dont Dieu a fait cela. » Mais l'homme est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saturé le sol d'impureté. Les rues sont remplies de saleté. Les égouts et les rivières sont polluées par les impuretés. Il ne pourrait. Eh bien, vous feriez mieux de ne pas prendre de cette eau-là pour en boire. Vous pourriez attraper n'importe quoi. Voyez? Regardez-la. Pas seulement ici, mais dans le monde entier, la chose est polluée. Et le monde, la nature, Dieu est miséricorde. Le monde entier est, et il éprouve les douleurs de l'enfantement. Le monde essaie, elle est en travail, a dit Isaïe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle essaie de donner naissance à un nouveau monde pour le millénium ou tout. Elle essaie d'enfanter un nouveau monde pour un nouveau peuple qui ne pêchera pas et qui ne polluera pas. C'est vrai. Elle est en travail. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en travail. Christ, pour enfanter l'épouse. Tout est en travail, tout gémit. Vous voyez, quelque chose est sur le point d'arriver. Et ce sixième fléau qui lui donne libre cours. Frère, le tremblement de terre, les ventres et les étoiles sont secouées. Les volcans seront en éruption et la terre va se renouveler. Une nouvelle éruption de lave va jaillir du centre de la terre et elle va s'ébouler de tous côtés, partout, partout, en tournant sur elle-même là-bas. Et un matin, je vous le dis, quand Jésus et son épouse reviendront sur la terre, il y aura là un paradis de Dieu tel que, oh là là, ces vieux guerriers du combat. Ils vont s'y promener avec leurs amis, leurs bien-aimés, L'air s'emplira des hymnes d'une armée d'anges. Oh, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi, celles que tu aurais dû connaître à l'époque avant qu'Ève ait roulé le ballon dans le péché. Amen. Oui, le sixième sceau va produire quelque chose. Oui, monsieur, vraiment. Le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. Maintenant, celui de maintenant, il est tellement imprégné d'impureté. C'est ce que j'ai prêché ici il n'y a pas longtemps. Je crois que je l'ai prêché au tabernacle, la dislocation du monde. C'est exactement ça. Regardez ce qui se disloque dans ce monde. Regardez, tout est en train de s'y effondrer. Assurément, il va forcément se disloquer. Oui, monsieur, regardez sa charpente. Je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer. La charpente de ce monde, le fer et le cuivre et les matériaux de cette terre, ils en ont été extraits de sa charpente pour servir à la guerre et à l'industrie, si bien qu'elle est presque sur le point. Nous n'avions encore jamais eu de tremblement de terre dans ce coin-ci du pays avant l'autre jour, jusqu'à l'autre jour. Si vous voyez, à Saint-Louis, dans cette région, elle est devenue tellement mince, ils ont extrait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, vous voyez. Sa politique est tellement corrompue, on a peine à en trouver un seul parmi eux qui soit honnête. Vous voyez, son système, sa moralité est tellement basse, elle n'en a tout simplement aucune. Voilà tout. Vous voyez, certainement, sa religion est pourrie. Oui, monsieur. C'est très bientôt l'heure où le sixième sceau va s'ouvrir. Et à ce moment-là, oh là là, c'est la fin. L'épouse est déjà sortie. La reine est déjà partie prendre sa position. Elle a été mariée au roi alors pendant que ceci se produisait. Et le reste d'Israël est scellé et prêt à partir. Et alors la nature se donne libre cours. Oh, quel moment! Remarquez le dernier verset du sixième sceau ouvert. Ceux qui s'étaient moqués de la prédication de la parole du Dieu vivant confirmée. Alors que ces prophètes s'étaient tenus là à accomplir des miracles, à éteindre le soleil et tout le reste, et tout au long de l'âge, vous voyez, ils criaient aux rochers et aux montagnes de les cacher. Vous voyez, de les cacher devant la parole dont ils s'étaient moqués parce qu'ils l'ont vu qui venait. Cachez-nous devant la colère de l'agneau. Il est la parole, vous voyez. Ils s'étaient moqués de la parole. Et ici, la parole était incarnée. Ils l'avaient ridiculisée. Ils s'étaient moqués d'eux. Ils les avaient ridiculisés et la parole incarnée se présentait là devant eux. Pourquoi ne sont-ils pas repentis? Ils ne pouvaient pas. C'était trop tard à ce moment-là. Alors, ils savaient que le châtiment, ils entendent cela. Ils s'étaient assis à des réunions comme celle-ci. Ils savaient qu'il en était. Ils savaient que les choses que ces prophètes avaient prédites, elles étaient là devant leurs yeux. La chose qu'ils avaient rejetée, ils avaient dédaigné la miséricorde pour la dernière fois. Et quand on déteigne la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Quand on déteigne la miséricorde, pensez-y un peu. Ils étaient là. Ils n'avaient aucun droit où aller ou aucun refuge. Et la Bible dit ici, ils demandaient, ils criaient aux rochers et aux montagnes, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face et devant la colère de l'agneau. » Ils ont essayé de se repentir, mais l'agneau était venu réclamer les siens, voyez-vous. Ils criaient aux rochers et aux montagnes. Ils ont prié, mais les prières venaient trop tard. Mon frère, ma sœur, la bonté et la miséricorde de Dieu sont offertes aux gens, alors qu'Israël a été aveuglé pendant maintenant presque 2000 ans, afin de nous donner à nous l'occasion de nous repentir. Avez-vous repoussé cette miséricorde? Avez-vous rejeté cela? Qui êtes-vous de toute façon? D'où venez-vous et où allez-vous? Vous ne pourriez pas demander aux médecins. Vous ne pourriez demander à personne au monde. Il n'y a aucun livre que vous puissiez lire que vous dites qui vous êtes, d'où vous venez et ce qui vous attend, à part ce livre-ci. Or, vous savez qu'à moins d'avoir le sang de l'agneau pour prendre votre place, voyez vers où vous vous dirigez. Alors, si Dieu a fait cela pour vous, le moins que nous puissions faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il nous a demandé de faire. Et sur cette base, si je vais plus loin, il va falloir que j'aborde directement ce fléau, tout cela, la réunion de demain soir. Et bon, je ne peux pas le faire, je ne peux pas aller plus loin. J'ai fait une marque ici, une croix arrêtée ici, voyez-vous. Ainsi donc, je dois attendre demain. Maintenant, courbons la tête un instant. Si vous n'avez pas, mon cher ami, n'avez pas accepté l'amour de ce Dieu dont je parle, si vous n'avez... Écoutez bien ceci maintenant. Si vous n'avez pas accepté son amour et sa miséricorde, vous devrez subir ses jugements et sa colère. Or, vous, ce soir, vous êtes dans la même situation qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous avez le droit, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez soit aller vers l'arbre de vie, soit prendre le plan du jugement. Mais aujourd'hui, pendant que vous avez votre bon sens, que vous êtes saint d'esprit et que vous êtes assez bien portant pour vous lever et l'accepter, pourquoi ne pas le faire si vous ne l'avez pas déjà fait? Y a-t-il des gens ici qui n'ont pas encore fait cela? Si oui, voulez-vous simplement lever la main pour dire, « Priez pour moi, frère Branham, je veux maintenant le faire. Je ne veux pas subir cela. » Maintenant, souvenez-vous, mes amis, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Ce ne sont pas mes idées à moi là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai pensé cela. Cela ne vient absolument pas de moi. C'est vrai, le Saint-Esprit le sait. Et attendez un peu, si le Seigneur le veut, demain soir, je vais vous montrer un mystère qui s'est déroulé tout le long, ici même, à ces réunions. Je ne sais pas si vous avez pu le voir ou pas. J'en doute fort, vous voyez. Voir ce qui s'est produit. C'est quelque chose qui était là, ici même devant vous. Et chaque soir, j'observais pour voir si cela allait se manifester, si quelqu'un allait dire, je le vois, vous voyez. Ne rejetez pas cela, je vous en prie. Je vous le demande, si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas sous le sang, si vous n'êtes pas né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, si vous ne vous êtes jamais déclaré publiquement pour Jésus-Christ en vous faisant baptiser dans son nom pour témoigner de ce que vous avez accepté sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, l'eau est prête. Ils attendent. Nous vous fournissons les vêtements de baptême ici et tout est prêt. Christ est là, les bras ouverts, prêt à vous accueillir. Dans une heure, il se pourrait que cette miséricorde ne vous soit pas accordée. Vous pourriez la rejeter pour la dernière fois. Elle ne touchera plus jamais votre cœur. Pendant que vous le pouvez. Pendant que vous le pouvez, pourquoi ne pas le faire? Maintenant, je sais que la manière habituelle, la coutume, c'est de faire avancer les gens à l'autel. Nous le faisons et c'est tout à fait en ordre. En ce moment, il y a tellement de monde ici, tout autour de l'autel, que je ne pourrais pas le faire. Mais j'aimerais dire ceci. À l'époque des apôtres, il est dit, « Tous ceux qui crurent furent baptisés. » Voyez? Si vous pouvez seulement, réellement, du fond du cœur, c'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas de l'émotion, bien que l'émotion vienne avec. C'est comme ce que je disais, fumer et boire, ce n'est pas un péché, c'est l'attribut du péché. Cela montre que vous ne croyez pas. Voyez? Mais quand vous croyez vraiment dans votre cœur et que vous le savez sur cette base, à l'endroit où vous êtes assis, que vous l'acceptez de tout votre cœur, il va se produire quelque chose à cet endroit même. Cela va se produire. Ensuite, vous pourrez vous lever pour en rendre témoignage. Quelque chose s'est produit. Avancez-vous alors vers l'eau. Dites, je veux montrer à l'Assemblée, je veux prouver, je veux affirmer mon témoignage, je veux prendre ma place au milieu de l'épouse. Maintenant, je suis debout ici pour être baptisé. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde ce soir, des femmes très bien, mais il y en a une dont la présence me manque terriblement. L'une d'elles est mon épouse. C'est elle qui rentre avec moi. Elle n'était pas mon épouse pour commencer, mais c'est en prenant mon nom qu'elle est devenue mon épouse. Il vient, il y a beaucoup de femmes d'église dans le monde, mais il vient chercher son épouse. Elle porte son nom. Dieu amènera avec lui ceux qui sont en Christ. Comment y entrons-nous? D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Maintenant, pendant que nous prions, priez, vous aussi, à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui sont regroupés dans des salles, dehors, debout, tout autour, dans les rues. Mais maintenant, pendant que vous êtes là, nous ne pouvons pas vous faire venir ici à l'autel, mais faites de votre cœur, votre autel. Et là, dans votre cœur, dites, « Seigneur Jésus, je crois ceci. Je suis resté dehors à respirer l'air de la nuit ici. J'ai été confiné dans cette petite pièce. Je suis assis ici au milieu de ces gens. Je ne veux pas. Je ne peux pas faillir. Je ne veux pas me le permettre. tout comme je le disais hier soir, et c'est vrai, le Seigneur sait que je dis la vérité, je ne mens point, comme le disait Paul. Cette vision ou ce que j'ai eu, j'étais là, j'ai regardé et j'ai touché ces gens qui sont décédés. C'était aussi réel que je me tiens ici en ce moment. Ne manquez pas cela, mon pauvre frère, ma pauvre sœur. Ne le faites pas. Je sais que des prédications, vous en avez entendu, que vous avez entendu ceci, cela, et des histoires, tout cela. Mais écoutez un peu, pour moi, ceci, c'est, je sais que c'est la vérité, vous voyez. Je ne peux pas être plus clair, vous voyez. Ne manquez pas cela, il n'en tient qu'à vous. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, j'ai ici devant moi une boîte de mouchoirs qui représente les malades. Alors que je prie sur eux, que je pose mes mains sur eux, comme la Bible a dit, ils prenaient des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul, et les esprits impurs sortaient des gens, de grands miracles se faisaient. En effet, ils avaient vu Paul. Ils savaient que l'Esprit de Dieu était en lui. Ils savaient qu'il était un homme étrange, vu les choses dont il parlait au sujet de la parole. Prenait l'ancienne parole israélite de l'Église israélite et il la vivifiait et la situait en Christ. Ils savaient que Dieu était dans cet homme. Ensuite, ils ont vu Dieu accomplir des œuvres étranges et puissantes par son entremise, prédire des choses. Et elles arrivaient telles que prédites. Aussi, ils savaient qu'ils étaient le serviteur de Dieu. Seigneur, je te prie d'honorer le respect de ces gens envers la parole et de les guérir pour l'amour de Jésus. Ici, dans l'auditoire, Seigneur, il y a des gens qui sont assis, exactement comme ceux qui avaient écouté l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Comme il est retourné en arrière dans la parole, et il est allé chercher la parole. Il a dit, « Joël a annoncé que dans les derniers jours, ces choses-ci arriveraient, et ceci, c'est cela. » Et les 3000 l'ont cru, et ils ont été baptisés. Et Père, aujourd'hui, nous nous tenons ici par ta grâce, et ce n'est pas parce que ce sont des gens exceptionnels, mais c'est parce que, exactement, comme au jour du lion, ou du bœuf, ou de l'homme, c'est le temps de l'aigle. C'est l'onction de l'heure. C'est le temps où nous vivons. C'est l'œuvre du Saint-Esprit pour ce temps-ci, en particulier pour prouver que Jésus n'est pas mort. Ces choses qu'il avait dit qu'il ferait juste avant que la lumière du soir s'éteigne. Voici que nous l'avons vu les faire tout le long du chemin. Nous l'avons vu descendre au milieu de la recherche scientifique et se faire photographier. La glorieuse colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, qui a rencontré Paul sur le chemin. Nous savons que cette même colonne de feu qui a conduit Moïse là-bas dans le désert, c'est par cette même colonne de feu qu'il a écrit plusieurs livres de la Bible, car il était oint de la parole. Cette même colonne de feu est descendue sur Paul sur le chemin de Damas, et il a écrit un grand nombre de livres de la Bible et appelé la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur, cette même colonne de feu, par l'évidence de la preuve, de la parole et par la recherche scientifique, que nous la voyons ici en train de révéler la parole du Seigneur. Ô Dieu, permets que les gens se réveillent rapidement, Seigneur, rapidement. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, quand ceci brillera sur leur sentier, puissent-ils voir, comme la jeune femme de mauvaise vie au puits, ce jour-là, elle a reconnu rapidement et elle a su que c'était l'Écriture. Et maintenant, Père, je prie que pour tous ceux qui te recevront en ce moment dans leur cœur, ce soit réglé pour toujours, à l'heure même qu'ils en finiront avec le péché, qu'ils se lèveront et se prépareront alors à faire une déclaration publique par le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés, pour montrer qu'ils croient que Dieu leur a pardonné et qu'ils prennent le nom de Jésus-Christ. Ensuite, Père, répands le Saint-Esprit, l'huile sur eux, pour qu'ils puissent être placés au service du Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent être des ouvriers en ce dernier jour, ce jour mauvais, car nous sommes conscients qu'il ne nous reste qu'un court laps de temps et que l'Église pourrait partir d'un moment à l'autre. L'agneau pourrait d'un moment à l'autre quitter le sanctuaire là-haut où le trône du sacrifice, s'avancer du trône de Dieu où se trouve le sacrifice à ce moment-là, c'est terminé. Plus aucun espoir. pour le monde. Elle est finie. Alors elle sera agitée par de violents spasmes, par des tremblements de terre et de violentes secousses comme elle n'y en a eu à la résurrection. Et elle est comme quand Christ est ressuscité des morts, quand les saints ressusciteront, la même chose se produira, Seigneur. Ce pourra être d'une minute à l'autre. Nous attendons la venue de ce jour d'allégresse. Prends tes enfants dans tes bras maintenant, Père. Amène tes petits agneaux contre ton sein. Accorde-le et nourris-les de la parole jusqu'à ce qu'ils aient la force nécessaire pour te servir. Nous te les confions maintenant, Seigneur. Exauce cette prière. Tu as dit, Père, dans Marc, au chapitre 11, « Quand vous priez, que vous êtes debout faisant votre prière, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir. Et de tout mon cœur, à celui qui a révélé ces choses au fil des années et ses sceaux ici au cours de cette semaine, je te crois, Seigneur Dieu, c'est l'heure. Elle est proche maintenant, plus proche que nous ne le pensons réellement, l'heure où tu vas t'approcher. Veuille, je te prie, exaucer ma prière et puisse tous les enfants de Dieu qui sont appelés, qu'ils soient à portée de voix d'ici ou bien touchés par la bande, permet qu'à ce moment-là, je les réclame pour le royaume de Dieu en me fondant sur le fait que je sais que ceci est la parole qui est en train d'être révélée, que la lumière du soir brille, Père. Je te les confie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à l'intérieur comme à l'extérieur, tous ceux d'entre vous qui croyez et qui n'avez jamais fait votre déclaration publique comme quoi vous en avez fini avec le péché et vous désirez la miséricorde de Dieu et vous l'avez accepté en Jésus-Christ, le baptistère, ils seront prêts à baptiser tous ceux qui désirent être baptisés aujourd'hui ou demain, tout de suite, ou n'importe quand. Appréciez-vous le sixième sceau? Voyez qu'il est ouvert maintenant? Y avez-vous cru? Il est dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Et à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Voyez? Croyez à ce qui est annoncé, alors le bras de l'Éternel est révélé. Le bras, la parole de Dieu est révélée. Si le Seigneur le veut maintenant, demain matin, je vais faire de mon mieux pour essayer de répondre à ces questions. Je vais probablement passer le reste de la nuit et ou presque à prier à leur sujet. Ma nuit dure seulement 1 à 3 heures environ. La nuit passée, il était presque 1 heure quand je me suis couché. Et à 3 heures, j'étais en train d'étudier. Voyez? J'aurai à répondre de ceci. C'est vrai. L'heure est trop avancée pour se permettre quoi que ce soit, de dire des bêtises, de faire des suppositions, de croire à moitié. Je dois d'abord le voir. Et puis, une fois que je l'ai vu, cela doit aussi se trouver dans la parole. Et jusqu'ici, par la grâce de Dieu, ils se sont parfaitement... J'ai fait le lien du début à la fin, vous le savez, et cela s'est harmonisé parfaitement. C'est forcément ainsi dit le Seigneur. En effet, ce n'est pas de le dire seulement comme quelque chose que je sais moi-même, mais la parole du Seigneur est « Ainsi dit le Seigneur ». Il y a la parole et je prends ce qu'il m'a donné et je l'harmonise avec elle pour vous le montrer, pour que vous le sachiez vous-même que c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Voyez, ici, il y a la parole qui le dit, ensuite la révélation qu'il me donne, laquelle est contraire à tout ce que nous avions pensé. Chacun d'entre nous est bien contraire à ce que moi-même je pensais, parce que je ne l'avais jamais approfondi comme ça. Mais maintenant, nous voyons que tout cela s'emboîte parfaitement. Et qu'est-ce que c'est? C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, c'est exactement ça. Il y avait un endroit qui était resté ouvert jusqu'à cette heure-ci. Et alors, le Seigneur vient et il ferme la boucle parfaitement comme ça. Alors, vous voyez, c'est le Seigneur. Oh, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Maintenant, souvenez-vous, nous n'avons pas pu nous avancer à l'autel. Plusieurs personnes ont levé la main. Alors, voyez-vous, c'est une affaire individuelle. C'est votre affaire. C'est votre choix à vous, voyez? L'heure est tellement proche, vous devriez pousser de toutes vos forces. On ne devrait pas avoir à vous traîner de force. Vous voyez, poussez simplement. Cherchez à entrer. Seigneur, ne me laisse pas dehors. Ne me laisse pas dehors, Seigneur. Les portes sont en train de se fermer. Si je peux seulement entrer, vous voyez, un jour, Dieu fermera la porte. Et il l'a fait à l'époque de Noé. Il l'a fermé contre la porte. Alors, souvenez-vous, la Bible dit qu'à la 7e veille, pas vrai? Quelques-uns se sont endormis à la première veille, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, à la septième. Mais à la septième veille, il y a eu une proclamation écrite. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Les vierges endormies ont dit, « Dis donc, j'aimerais bien avoir cette huile maintenant. » L'épouse a dit, « J'en ai juste assez pour moi. J'en ai juste assez. Si tu en veux, va toi-même en prière pour en recevoir. » Ne voyez-vous pas la vierge endormie maintenant? Regardez les épiscopaux, les presbytériens, les luthériens et tout, qui cherchent à... Et le problème, c'est qu'au lieu de chercher à recevoir le Saint-Esprit, ils cherchent à parler en langue. Et beaucoup d'entre eux parlent en langue, mais ils ont honte de venir à cette église pour qu'on prie pour eux. Ils veulent que j'aille chez eux prier pour eux. Vous appelez ça le Saint-Esprit? C'est parler en langue, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, voyez? Et je crois que le Saint-Esprit parle en langue. Vous savez que je crois cela, voyez? Mais il en existe une contrefaçon aussi. Oui, monsieur, ce sont les fruits de l'Esprit qui démontrent ce que c'est. Les fruits de l'arbre démontrent de quelle sorte d'arbre il s'agit. Pas l'écorce, le fruit. Maintenant, remarquez, alors, quand il est venu à cette dernière heure, et là, quand elles sont arrivées, alors elles ont dit, « Eh bien, je crois que je l'ai maintenant. Je crois que je l'ai reçu. Oui, nous le recevons. Je ferais mieux de ne pas dire ceci, vous voyez, parce que ça pourrait causer de la confusion. L'autre jour, quand j'ai parlé de l'enlèvement, de la façon dont il se passerait, si vous me dites que vous allez l'accepter, alors d'accord. Regardez bien. Regardez bien, d'accord, c'est comme vous voulez. La Vierge endormie, vous voyez, quand elle pensait qu'elle avait assez prié pour revenir, l'épouse était déjà partie. Il était passé, elle ne s'en était pas aperçue, comme un voleur dans la nuit. C'est là qu'elles ont commencé à frapper contre les portes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été précipitées dans la période de la tribulation. La Bible dit qu'il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Pas vrai? Quand ce sera? Frère, sœur, je ne sais pas. Mais il se peut que ce soit seulement moi ici, voyez-vous? Ceci, c'est mon idée à moi, voyez? Je crois que c'est tellement proche. Chaque jour, j'essaie tout simplement de marcher le plus doucement possible, voyez? Et là, quand vous savez quand il s'est passé quelque chose aujourd'hui, j'ai vu émerger quelque chose. J'ai eu le souffle coupé, vous voyez? Ils étaient là, ils se tenaient là, cette petite lumière, elle se tenait là. Et ça y était, je sais que c'est la vérité. J'ai pensé, oh Dieu, je ne pourrais pas dire cela, je ne peux pas dire cela, je ne peux pas. Je suis simplement sorti de la pièce, je suis sorti dehors, je faisais les 100 pas, frère. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Oh, vous voyez, il faut que j'aille à la pêche ou quelque chose, sinon je ne peux pas vous le dire, vous voyez. Alors nous passons des moments bénis, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, nous vivons dans un temps prodigieux, vous voyez, car mon cœur déborde de bonheur et de joie. Mais quand je pense à ce monde et aux milliers dont je sais qu'ils sont perdus, recouverts d'une ombre noire, alors on a le cœur qui saigne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous sentez tout simplement le Saint-Esprit qui s'écrit dans votre cœur, comme cela a dû être le cas pour notre Seigneur quand il regardait Jérusalem, son propre peuple. Vous voyez, il a dit, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes comme une poule s'accouver, mais tu ne l'as pas voulu. » Vous sentez tout simplement le Saint-Esprit qui dit, « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? » Voyez-vous? Mais vous ne l'avez pas voulu. Voyez? Nous sommes très près de quelque chose, mes amis. De quoi il s'agit? Dieu le sait. Personne ne sait quand cela va se produire, car c'est un secret. Personne ne sait quand cela va se produire. Mais Jésus nous a dit, « Quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, comme ce que j'ai fait, là, en comparant le sixième sceau avec ce qu'il avait dit dans Matthieu 24. Maintenant, rappelez-vous ce qu'il a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, commencer à arriver, alors le moment se rapproche à la porte. Observez le verset qui vient tout de suite après, les versets 30 et 31, alors que ça continue, les versets 32, 33, il a dit, « Il enverra ses anges aux quatre coins des cieux, aux quatre vents, pour rassembler ses élus. » Pas vrai? Il a dit, oh, rappelez-vous, il s'est arrêté là, il n'a pas continué après ce sixième saut, il n'a rien dit au sujet du septième, il a parlé du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, cinquième, sixième, mais il s'est arrêté là, il n'a pas fait mention de quoi que ce soit là-dessus. Observez ce qu'il a dit ensuite, mais apprenez une parabole, voyez? Ensuite, il s'engage dans une parabole. Il a dit, ces choses arriveront. Il répond à ces trois questions. Quels seront les signes? Et quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de la fin du monde? Et le sixième, là, c'était la fin du monde. Et le septième ange retentirait. Il a levé les mains et a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. La terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Et nous voici ici même à la porte. Oh, je tremble. Et que dois-je faire, Seigneur? Que puis-je faire d'autre? Vous voyez? Et puis, pensez un peu d'avoir vu cet endroit et ces précieuses personnes. J'étais là, je me regardais et j'ai pensé, oh Dieu, mais ils ne peuvent pas manquer ceci. Je devrais les pousser. Je devrais tout simplement descendre dans l'auditoire, aller les chercher, les pousser. On ne peut pas faire ça. Et personne ne peut venir si mon Père ne l'attire. Mais voici la consolation que nous avons. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Mais tous les autres, avec ces organisations, alors qu'ils se reposent sur elles, comme ça, vous voyez, et il séduisit tous ceux qui habitaient, tous les habitants de la terre, dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Oh là là! Alors, vous voyez, c'est une triste chose. La seule chose à faire, c'est simplement de vous en tenir strictement à la parole. Regardez ce qu'il a dit. Faire simplement, et puis faites-le. Vous voyez, ce qu'il dit de faire, faites-le. Et vous regardez là-bas et vous dites, oh là là, ils font ceci, et puis, oh, c'est tout simplement, vous ne vous rendez pas compte de la tension. Maintenant, je voudrais dire ceci. Je pense qu'ils ont arrêté l'enregistrement. Bien des gens disent, Frère Bonham, avec un ministère comme celui-là, il faut que je fasse attention parce que les gens vont simplement prendre les bandes, ils vont chercher la petite bête noire en les écoutant, vous savez. Alors, quand ils disent, Frère Bonham, nous aimerions vraiment avoir un ministère, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous, franchement, vous ne savez pas ce qui va avec, frères et sœurs. Oh là là. Et la responsabilité, alors qu'il y a des gens qui s'accrochent à ce que vous dites. Souvenez-vous, si vous leur dites quelque chose de faux, Dieu vous redemandera leur sang. Donc, pensez un peu à ça. C'est une chose terrible. Alors, soyez aimables. Aimez Jésus de tout votre cœur. Soyez simple. Ne cherchez jamais à résoudre quoi que ce soit. Soyez simple devant Dieu, c'est tout. En effet, plus vous chercherez à résoudre la chose, plus vous en éloignerez de lui. Voyez, croyez-le simplement, c'est tout. Vous dites, bon, mais quand viendra-t-il? S'il vient aujourd'hui, très bien. S'il vient dans 20 ans, c'est encore très bien. Je vais continuer à faire exactement ce que je fais en ce moment. Le suivre. Seigneur, si tu peux m'utiliser quelque part, me voici. Seigneur, si c'est dans 100 ans, si c'est mes arrière-arrière-petits-enfants sont là pour voir cela arriver, que Seigneur, je ne sais pas quand ce sera, mais permets-moi simplement aujourd'hui même de marcher simplement avec toi. Voyez, je veux, en effet, je ressusciterai ce jour-là exactement comme si j'avais fait un petit somme quelque part. Je traverserai ce glorieux palais là-bas, ce royaume de Dieu là-bas où tous les vieux seront jeunes, où les robes blanches ont déjà été revêtues. Les hommes et les femmes ont été changés pour retrouver une beauté, l'œuvre d'art même, qui est un bel homme, une ravissante femme. Ils sont là-bas dans toute la beauté, la stature d'une jeune femme et d'un jeune homme. Ils sont là-bas et ils ne pourront jamais vieillir, ils ne pourront jamais pécher, ils ne pourront jamais y avoir de jalousie, aucune haine, ni rien. Oh là là! Je pense qu'ils ont arrêté l'enregistrement maintenant. Il nous reste seulement à peu près 3 ou 4 minutes. Je veux vous parler. Vous êtes d'accord? Maintenant, ceci, c'est simplement personnel, voyez-vous. En effet, demain, ça va être tellement prodigieux, je pense qu'il faudrait mieux que je le dise maintenant, vous voyez? Je vais le dire là. Ceci, c'est seulement pour nous, là. Vous savez, j'ai une épouse qui m'aime, que j'aime, et c'est mesdames. Et je ne l'aurais même pas épousée, vu l'amour que j'avais pour ma première femme. Et malgré toute l'affection que j'avais pour elle, je ne l'aurais pas épousée si Dieu ne m'avait pas dit de le faire. Et vous savez comment ça s'est passé? Elle est allée en prière, et moi aussi. Et alors, elle m'a dit exactement quoi faire. Il m'a dit exactement quoi faire. Et épouse-la, et le moment précis de le faire. C'est une femme merveilleuse. Et elle prie pour moi ce soir. Et donc, en ce moment, il est 8 heures chez nous. Elle est probablement en train de prier en ce moment. Maintenant, remarquez. Un jour, elle m'a dit, Bill, elle a dit, je voudrais juste te poser une question au sujet du ciel. J'ai dit, très bien, Meda, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, tu sais que je t'aime. J'ai dit, oui, ça c'était juste après ce qui s'est passé ici-là. Elle a dit, tu sais que Hope aussi, elle. J'ai dit, oui. Elle a dit, bon, elle a dit, je ne pense pas que moi je serais jalouse. Elle a dit, mais Hope, elle l'était. Et elle a dit, maintenant, quand nous arriverons au ciel, et tu as dit, tu l'avais vu là-bas? J'ai dit, elle y était. Je l'ai vu. Je l'ai vu deux fois là-bas. Elle y est. Elle attend que j'arrive. Même chose. Même chose pour Sharon. Je l'ai vu exactement comme je vous regarde. Je l'ai vu là-bas. Elle a dit, eh bien, donc, quand nous arriverons là-bas, elle a dit, laquelle des deux sera ton épouse? J'ai dit, vous le serez toutes les deux. Il n'y en aura aucune, tu vois. Mais pourtant, vous le seriez toutes les deux. Elle a dit, je ne comprends pas. Il dit, bon, chérie, assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai dit, bon, je sais que tu m'aimes et tu sais combien je t'aime, combien j'ai de respect et d'estime pour toi. Maintenant, disons, par exemple, que je me mette sur mon 31 et que j'aille en ville et qu'une petite prostituée vraiment jolie arrive et qu'elle me saute au cou en disant, oh, que je vous aime, frère Branham, qu'elle se mette à se pendre à mon cou, à me serrer dans ses bras. Qu'est-ce que tu en penserais? Elle a dit, je pense pas que j'aimerais ça. J'ai dit, je voudrais te demander quelque chose. Qui aimes-tu le plus s'il devait y avoir une confrontation, moi ou le Seigneur Jésus? Maintenant, on est en famille, là, on parle. Elle a dit, le Seigneur Jésus. Elle a dit, oui, Bill, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, mais plutôt que de renoncer à lui, je renoncerai à toi. J'ai dit, merci, chérie. Je suis content de t'entendre dire cela. J'ai dit, maintenant, si cette même petite femme arrivait devant Jésus et lui sautait au cou en disant, Jésus, je t'aime, qu'est-ce que tu penserais de ça? Elle a dit, j'aimerais ça. Vous voyez, cela passe du philéo à l'agapao. Vous voyez, c'est un amour plus élevé, vous voyez. Et d'être mari et femme, ça n'existe pas comme... Et d'élever des enfants, ça n'existe pas. Tout ça, c'est parti. Les sexes féminins et masculins, les glandes sont toutes, elles sont toutes pareilles là-bas, vous voyez. Il n'y en a plus du tout, vous voyez. Il n'y a plus de glandes sexuelles du tout, pas du tout. Vous voyez, vous êtes simplement... Oui, monsieur, essayez de vous imaginer sans glandes sexuelles. La raison pour laquelle elles ont été placées en nous, c'est pour repeupler la terre, vous voyez. Mais là-bas, il n'y en aura pas là-bas. Il n'y aura ni glandes mâles, ni glandes femelles. Non, seulement la stature de l'art de Dieu sera là, c'est tout à fait exact. Mais nous serons véritablement authentiques. Aucun philéo du tout, tout agapao. Par conséquent, une épouse, ce sera seulement quelque chose de ravissant qui vous appartient et vous appartenez l'un à l'autre. Il n'y a absolument pas de... Aucun, il n'y a même pas... Vous voyez, la partie philéo n'est même pas là du tout, vous voyez? Il ne peut rien y avoir qui ressemble à la jalousie. Il n'y a aucune raison d'être jaloux. Cette chose-là n'existe pas là-bas. Vous ne ressentirez jamais rien de semblable. Vous voyez, et charmant, tout simplement, un jeune homme et des jeunes femmes pour y vivre. Et puis après, elle a dit, « Je vois maintenant, Bill. » J'ai dit, « Oui. » Je veux vous raconter une petite chose qui est arrivée. Ceci, c'était un rêve. Je dormais. Je ne l'ai encore jamais rencontré en public. Je l'ai raconté à deux ou trois personnes, mais jamais encore en public, pour autant que je sache. J'ai rêvé environ un mois après ça, qu'un jour, j'étais là en train d'observer le moment glorieux, ou pas le jugement, là. Je ne crois pas que l'Église ait jamais à passer. Je veux dire, l'épouse, à comparaître en jugement. Mais j'étais là au moment où les couronnes étaient données, vous voyez, et le grand trône était installé ici, et Jésus et l'ange qui tenaient le livre et tout, ils étaient là, il y avait comme un escalier qui descendait de ce côté-ci en ivoire blanc, il descendait en rond en offrant une vue panoramique comme ceci, il débouchait, et comme ça, et toutes ces grandes foules qui étaient là pouvaient voir ce qui se passait, et je restais debout à l'écart, et très loin en arrière, j'étais là debout simplement, bien loin de soupçonner qu'il me faudrait monter ces marches, j'étais là, je voyais l'ange qui tenait le livre appelait un certain nom, et je savais que je reconnaissais ce nom, je regardais très loin là-bas, voilà le frère qui s'avançait avec une sœur qui l'approchait comme ça. L'ange qui tenait le livre était debout à côté de Christ. Ce n'était qu'un rêve, là. Il regardait et leur nom était là. Ils se trouvaient dans les livres de vie. Alors, il les regardait et disait, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Maintenant, entre. J'ai regardé derrière vers l'endroit où ils allaient. Il y avait un nouveau monde et les joies. Il a dit, entre dans les joies du Seigneur qui t'ont été destinées depuis la fondation du monde, voyez. Et je me disais, ils allaient de l'autre côté. Ils se retrouvaient là et tout n'était que joie. Et ils allaient sur les montagnes et dans une étendue très vaste. Mais je pensais, oh, « N'est-ce pas merveilleux? Gloire! Alléluia! » J'étais là, soutillé. Ensuite, j'entendais appeler un autre nom. Je me disais, « Oh, je le connais! Le voilà là-bas! » Je regardais aller comme ça, « Entre dans les joies du Seigneur, mon bon! » Et « Oh! » Je disais, « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Il disait, par exemple, comme on dirait, « Orman Neville, vous voyez? » Et alors, je dirais, « C'est le bon vieux frère Neville, le voilà! » Le voilà qui sort de la foule. Il monte. Alors il dit, entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi dès avant la fondation du monde. Entre. Et le bon vieux frère Novice serait tout transformé, s'en irait là-bas en poussant des cris, en jubilant. Oh, et moi, j'étais là, jubilant, en disant, gloire à Dieu, debout, tout seul dans mon coin. Je passais des moments bénis à regarder mes frères entrer. Et un ange qui tenait le livre a dit, il a dit, William Branham. Je n'avais pas du tout pensé que j'aurais à m'avancer comme ça. Alors là, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, il va-t-il falloir que je fasse ça? Alors je me suis avancé et tout le monde était là qui me donnait des petites tables dans le... bonjour, bonjour Frère Lame, que Dieu bénisse Frère Lame. Il me donnait des petites tables comme je passais à travers une immense foule de gens. Ils étaient tous là, ils s'étendaient les bras pour me donner des petites tables comme ça. Que Dieu bénisse Frère. Je m'avançais, je disais merci, merci. C'était comme si je venais d'avoir une réunion, quelque chose, vous savez. Et là, il me fallait monter ces énormes marches d'ivoire. Je m'approchais pour les monter là. Et en arrivant sur la première marche, je me suis arrêté. Et je me suis dit, j'ai regardé son visage, je me suis dit, je veux bien examiner cet angle-ci. Je tenais mes mains comme ceci, j'ai senti quelque chose qui se glissait sous mon bras. C'était le bras de quelqu'un d'autre. J'ai regardé autour de moi et Hope était là, ses grands yeux noirs, ses cheveux bruns qui lui descendaient dans le dos et elle portait une robe blanche et elle levait les yeux vers moi. Comme ça, j'ai dit, Hope. J'ai senti quelque chose toucher ce bras-ci. J'ai regardé autour de moi et Meda était là. Ses yeux noirs qui me regardaient, ses cheveux noirs qui lui descendaient dans le dos. Elle portait une robe blanche. J'ai dit, Meda, elles se sont regardées, vous savez, comme ça. Elles étaient, se sont appuyées à mon bras et nous sommes partis pour la maison. Je me suis réveillé. Oh, je me suis réveillé. Je me suis levé. Je me suis assis dans un fauteuil. J'ai pleuré, vous savez. Je me disais, oh Dieu, j'espère que c'est comme ça, que ça se passera. Tous les deux, mes compagnes dans cette vie, elles m'ont donné des enfants, et ainsi de suite. Et nous voici, faisant notre entrée dans le nouveau monde. Oh là là, où se trouve la perfection et tout. Non, rien. Oh, ce sera quelque chose de merveilleux. Ne le manquez pas, ne le manquez pas. Par la grâce de Dieu, faites tout ce que vous pouvez, et ce sera à Dieu de s'occuper du reste. Alors, je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du... Chantons-le encore de tout notre cœur. Maintenant, levons-nous les yeux vers Dieu. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Salut sur le bois du calvaire. Très bien maintenant, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit encore vivante à la fin de cette réunion. C'est vrai. La voilà, les deux mains en l'air en train de louer Dieu. C'est pour cette raison que je m'attardais longtemps ici, pour ne pas vous dire ce que je faisais. Je parlais de Meda et des autres. C'était parce que j'observais pour voir. Je voyais cette lumière qui allait et venait constamment en tournoyant. Et elle s'est placée au-dessus d'elle. Je me suis dit, ça y est. N'est-ce pas merveilleux? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis salut. Sur le bois du calvaire. Maintenant, dans nos cœurs. Pensez simplement à sa bonté et à sa miséricorde. Comme c'est mieux. Amen. C'est ça. Maintenant, allez, soyez guéris. Amen. La grâce de Dieu vous est apparue pour vous guérir. Amen. Sur le bois du calvaire. Oh, gloire à Dieu. Je l'aime. Très bien, votre pasteur. 9h et 9h30. 9h quelque part par là. Je commencerai à 9h30.